Ça voulait dire qu'on allait sans doute devoir interrompre ce stream pour cause de malformation capillaire. Et l'épi s'est transformé en banane. Tout va bien. Ça veut dire que j'ai marché dans mon quartier pour rejoindre le studio depuis la maison avec ce magnifique épi qui était un peu comme ça, quoi. Voilà. J'avais le regard confiant, voilà. La démarche assurée, un peu chaloupée, presque féline. Voilà. Le regard conquérant vers l'horizon, voilà. Ignorant les regards qui se posaient sur moi. N'entendant pas les rires, puisque effectivement j'avais une espèce de houppette là. Voilà. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Oublions cet épi. C'est magnifique. Ça va peut-être parler Palme d'Or et réforme des retraites ce matin. Palme d'Or, pas impossible, réforme des retraites. Petite pause, hein. On va en reparler à mesure qu'on va approcher du 6 juin et du 9 juin, parce qu'il y a des dates dans cette bataille qui n'est pas terminée, effectivement, mais là, non. J'ai trouvé d'autres trucs, on est un peu sur l'amour, on est un peu sur l'espoir, on est un peu sur une ode à la différence ce matin. J'ai trouvé de beaux articles qui vont nous donner foi, ou à nouveau foi en l'humanité. Je sais, je suis un peu d'humeur lyrique ce matin, vous allez voir, on va plutôt lire des belles choses, les trucs un peu hardcore de politique, tout ça. Petite pause ce matin, petite pause. Ah, l'amour, me dit Stassi. Stassi Balduni, ah, l'amour. Faudra le lancer dans la tête de Palme d'Or de Jane Fonda. Oui, enfin, de documents, de parchemins, quoi. Oui, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus passionnant, pas bien compris. Alors, il faut c'est Didoudi qui nous parle du lancer de je sais plus quoi de Jane Fonda dans la tête de la réalisatrice qui a reçu la Palme d'Or suite à son discours un peu polémique. Et n'oubliez pas que dans la vie, il y a l'info, la vraie, l'intéressante, celle qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Et puis il y a l'info sur Twitter, qui est autre chose. Oui, match de Roland-Garros aussi, David, on en a parlé un petit peu hier. Ce matin, rien de très nouveau. Hier, je vous ai lu un article sur ces deux jeunes espoirs de 18 et 19 ans, là, français, qui dans quelques années, on l'espère, devraient briller de la vie de tous les spécialistes. C'est un petit peu tôt pour ce Roland-Garros, mais on ne sait jamais. Mais il n'est pas impossible que demain, puisque demain ça stream. Demain, c'est quoi, les amis? Demain, c'est lundi de Pentecôte, c'est ça? Donc j'espère bien qu'il y aura des journaux et qu'on les lira demain, puisque demain, du coup, je suis en repos, et de France Info, une question pour un champion, et du coup un petit stream demain matin, mais pas à 10h, quoi. Non, il est 11h, pas 11h, quoi. On va lancer à 8h30, on va lancer à 9h, hein. Parce que ma petite famille est en week-end, et du coup je serai avec vous demain matin. Voilà, parmi les deux jeunes tennismen français, il y a notamment Arthur Fils. Papa Camille nous rappelle qu'il a gagné à Lyon, hein. C'est l'un des espoirs du tennis français. Merci Mirette01 pour le gentil message là. Et le 7e mois d'abonnement. Tiens, un petit coup d'œil au sub, et je voulais vous remercier, vous qui soutenez, qui vous abonnez de bon matin le dimanche, enfin 11h, Samuel Etienne, le bon matin, la bonne grosse grasse matinée, hein. Alors, bah, il faut dire que hier on a streamé de 20h à 23h, un peu plus. Depuis le musée Guimet, le musée national des arts asiatiques, avec Foki et avec Madame Palot, Marie, voilà. Et c'était et puis Joe bien sûr pour la réal, et Baptiste au son, et toute l'équipe et les équipes du musée, c'était juste génial, on s'est régalé. Alors j'étais content. Donc du coup, le temps de plier les affaires, de prendre un petit verre avec l'équipe du musée qui était génial, et puis Pipin bien sûr qui était la réal. Merci beaucoup R&D's. L'équipe est tellement énorme, c'est super production maintenant, que parfois j'en oublie. Et donc petit verre avec l'équipe du musée, je mets tout le monde dans des taxis. Ça m'a fait rire parce que Foki habite à un millier de kilomètres à peu près de Paris, ou 10 000 ou 1 million d'années-lumière, je sais plus. Mais quand j'ai rentré l'adresse de Foki dans l'appli des taxis, et que j'ai vu le montant qui s'affichait, avec plein de zéros, je me suis dit, ah oui quand même, ah oui c'est loin quand même, hein. Bref, pardon, excusez-moi, je suis dans ma compta. Et du coup après je suis rentré à la maison, donc il était bien minuit 30, quoi. Et puis c'est pas tout, moi, comme je participe invité par l'adorable Mimi Hegel à un truc là cet après-midi, un podcast à Paris où on va parler de cinéma, et où je dois parler tout à l'heure de mon film préféré, qui est Birdie, un film d'Alan Parker qui est sorti en 1984. Il y a Lolo Kuhn qui en parle d'ailleurs à l'instant dans le chat, et qui nous parle du Culture Fest où je suis invité tout à l'heure, eh bien, du coup, j'ai re-regardé le film parce que je ne l'avais pas vu, mais il m'avait beaucoup touché à l'époque, depuis 1984. Donc je l'ai revu. Du coup, je me suis couché à 3h15, 3h30 du matin. Et je me suis dit, pas de réveil, on l'a fait un petit peu à la peine, que j'ai envie de dire, hein, en total rebelle. Et j'ai ouvert les yeux à 9h. Je me suis dit, petite revue de presse. En lisant vite Le Parisien Dimanche, le JDD, journal du dimanche, Le Monde du week-end. En lisant vite, on peut lancer à 11h. Le matin ne sera pas terminé, on sera dans les clous. Me voilà. J'ai perdu un pari, très joli pseudo. Merci beaucoup pour ce très gentil message et le 7e mois d'abonnement. Tu n'étais pas hier soir, mais tu pourras voir le stream en replay, bien sûr. C'est déjà sur ma chaîne YouTube et également sur ma chaîne Twitch. Et c'est gratuit. Mirette01, encore merci. Margot DV, merci pour le 3e mois d'abonnement. Le gentil message sur la visite du musée Guimet hier soir. Du soutien, merci. Didoudi, comment vas-tu? Merci pour le 22e mois d'abonnement. Je crois que Pépin Camille vient d'arriver à 22 mois aussi. C'est le maximum. La chaîne a plus de 22 mois. La chaîne va avoir bientôt 3 ans. Mais je n'ai ouvert les subs qu'il y a 22 mois. Au début, c'était full gratuit. Et on ne peut pas être abonné depuis plus de 22 mois. Tu es au max, Didoudi. Merci beaucoup. Nicolang, merci beaucoup pour le 10e mois. Flobby One pour le 9e mois. Pépin Camille pour le 22e mois. Je crois que c'est la première fois avec Pépin Camille que je vois quelqu'un qui est abonné depuis 22e mois. On ne peut pas faire plus. Merci. Camille, du soutien. Nobi One, merci pour le 21e mois, c'est énorme aussi. Et à l'instant, PBWX23PMN, merci pour le 12e mois. Reniflor de Paix, PAIX, je précise, merci pour le 18e mois. Slogan, merci pour le 4e mois, vous êtes formidable. 3 ans que Étoile nous a amené Monsieur Chibre, et oui. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Je vous lis un petit peu. Parce que, comme le veut l'expression, ça me met de bonne humeur. Et après, je vous montre ce qu'il y a dans les journaux ce matin. Salen Chita, justement, nous parle des subs. Et nous dit, est-ce que tu avais dit pourquoi tu voulais pas mettre le replay co-sub, ce qu'on appelle le sub-only, hein? On va rappeler, le sub-only, c'est réserver les replays, l'accès aux replays, aux gens qui sont abonnés. Beaucoup de streamers le font, me dis-tu? Oui, je sais. Vous avez vu comment je me suis recoiffé? Subrepticement. Je me suis pas douché encore. Je suis dégueulasse. Je me suis lavé les dents, mais comme je vais aller courir après ce stream-là, eh ben, du coup, on va pas se doucher 15 fois non plus. Et donc, j'irai tout à l'heure après la petite course à pied. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouvais ça sympa de ne pas me mettre en sub-only. Alors après, un mot des nombreux streamers et streameuses, avec des grosses communautés ou pas d'ailleurs, hein, grosses audiences ou pas, qui sont très nombreux à être passés en sub-only. Souvent, c'est pour financer aussi leurs activités, leurs projets. Alors, d'ailleurs, je ne m'interdis rien, puisque de plus en plus, je vais mettre en place des projets sur Twitch. Aujourd'hui, vous avez quand même 4 formats en cours sur cette chaîne. Vous avez tous les matins, enfin quand je peux, le plus souvent possible, la matinée Étienne, comme là, on va lire les journaux. L'exposition Étienne, les streams dans les musées, ben, c'était le 6e déjà hier, vous vous rendez compte? L'hebdo Étienne, l'émission hebdomadaire de retour sur l'actualité avec 4 invités, tous les vendredis soirs. On a fêté la 33e vendredi dernier, la dernière de la saison, 34e c'est vendredi. Donc c'est une émission qui demande des moyens aussi. Et il me manque une, la rencontre Étienne, quand j'invite des gens à la maison pour une petite discussion entre amis, des personnalités, des streamers, des streameuses. Le dernier, c'était Franck Gastambide, le comédien et le réalisateur, dont le nouveau film arrive bientôt sur Amazon, je crois. Et c'est Medellin, comédie sur fond de Colombie, voilà. Et voilà pour les rendez-vous. Et il y en a d'autres qui arrivent à la rentrée, donc peut-être qu'à un moment, j'aurai besoin d'un tout petit peu plus de mailles. Comme disaient les jeunes, ou disaient les jeunes il y a 30 ans, je ne sais jamais si les mots que j'ai dans la tête, soi-disant de jeunes, sont vraiment des mots de jeunes, ou des mots anciennement de jeunes qui me font passer du coup pour un très très vieux. La moula, peut-être, oui, aussi. Mais je soupçonne la moula déjà d'être un mot de vieux, puisque je l'utilise. C'est quelque part, c'est déjà un mot de vieux. Et donc peut-être que je sais pas moi, peut-être qu'au carrefour de l'été, peut-être qu'à la rentrée, on va passer en sub-only, hein, pour dégager du moyen, pour dégager de la maille pour dégager de la moula pour pouvoir financer tous ces projets et payer, par exemple, le taxi de Foki. Foki, je crois que tu es là. Je vois plein de bonjour à Foki. Foki, tu viens d'arriver. Je vais être tout à fait honnête. Hein. J'aime bien faire des blagues claquées au sol. Et tout à l'heure, on parlait du déroulé de la journée d'hier et du fait que, voilà, comme d'habitude, en général, j'essaie de mettre tout le monde dans les taxis. Et je disais, évidemment, je n'ai pas dit où tu habitais. D'ailleurs, je n'en ai aucune idée. Je l'ai oublié. Mais que quand j'ai rentré ton adresse dans l'appli du taxi, effectivement, plein de zéros se sont affichés. On a bien ri tous les deux, quoi. Voilà. Voilà, c'était, en fait, tu l'as bien compris, c'était pour susciter un peu de pitié auprès des viewers, que ça claque le sub, quoi. Voilà. El Giganto qui a écrit, voilà, Foki. Foki, c'est son petit nom, et Fakir, son nom de streameuse officielle sur la chaîne, qui vit à 250 000 euros de Paris. Je pense que Foki, tu peux confirmer ici dans le chat, effectivement, que tu habites peu ou prou, hein, quelques zéros près, à 250 000 euros de Paris, ce qui a mis les finances de tout ce projet éditorial sur Twitch eh bien, en danger. Merci de votre générosité. Comment je suis en train de faire la manche, quoi. Putain, je suis vraiment un crevard, quoi. Hein. Foki, je te l'ai dit, de vive voix et en message aussi, merci beaucoup de ta présence hier. Tu étais... Voilà, c'était très précieux de t'avoir avec Marie Palot. Je sais que vous ne connaissiez pas directement toutes les deux, mais la connexion s'est faite tout de suite et c'était super de t'avoir, quoi. Allez voir le replay, vous allez voir Foki et allez voir la chaîne de Foki. D'ailleurs, je pense que les modos pourraient nous la mettre dans le chat, la chaîne de Foki. Vous tapez F-A-K-H-E-A-R, si je dis pas de bêtises, vous allez tomber sur une très belle chaîne. Voilà, voilà, ça y est, la chaîne est là. Mais voilà. Guiwi donc a été apitoyé par mon discours et vient de lâcher son 7e mois d'abonnement. Brininis même pour être précis, également au 6e mois. Darkside, merci pour ton prime. Grestock de Puy Corbeau. Je pense que ce pseudo s'applaudit. Merci pour le 3e mois. Pebwix 23, je crois que je t'ai remercié mais je le refais à nouveau. J'ai adoré ton casque, me dit Winner. Quel casque? Je n'ai pas de casque. Ce sont mes cheveux, hein. Ce sont mes cheveux, ce n'est pas un casque. Peut-être que tu fais référence à un truc dans l'expo hier, j'ai oublié. Alors je vous lis un petit peu et on y va. Lilou Rennes a apprécié le stream hier soir, merci beaucoup. Ok, il y a Gwenegan79 qui nous raconte une histoire extraordinaire et étonnante dans le chat. Ah l'amour! Ah l'amour, vous irez voir le message, ça parle de son frère qui va claquer des sous. Ah l'amour, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Monsieur le D, j'ai reçu votre SMS. Monsieur Djokoko, donc qui était à la réalisation hier soir. Monsieur Djokoko, quand je me couche à 3h30, quand je me lève à 9h, quand mon corps, appelé par l'odeur, et alléché par l'odeur de l'actualité, se lève pour lire les journaux. Quand je dévore le Parisien dimanche et le journal du dimanche et le Monde pour lancer un stream à 11h, après m'être réveillé à 9h, c'est une lecture express, je n'ai pas là tout de suite le temps de répondre aux SMS tombés dans la nuit ou le matin. Voilà, monsieur le D. Voilà. Donc cessez de me harceler maintenant, et je vous répondrai tout à l'heure quand j'aurai fini mon stream. Non mais c'est pas possible ça. Salut Joe, ça va? Merci Guiwi pour le 7e mois d'abonnement. Merci Dave56Rock17 pour le 3e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Joe, oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. A priori c'est oui, j'ai regardé la date. A priori c'est oui. Laisse-moi me pencher à tête reposée sur mon agenda de ministre, voir voilà, entre mes entretiens à l'Elysée, entre mes messes noires que je célèbre certains soirs, de pleine lune dans les catacombes de Paris, les jours où je n'ai pas, qu'est-ce que je peux inventer comme bêtise que je pourrais faire de stylisme capillaire, parce que j'ai beaucoup de stylisme capillaire, notamment pour Joe d'ailleurs, auprès de qui je suis un précieux conseil en matière de stylisme capillaire. Laisse-moi vérifier mon agenda, donc je te confirme, mais a priori, c'est oui. C'est oui. C'est Yumi, je crois que je t'ai déjà merci, je sais plus, pour le prime, merci. Bon, ça va, vous, sinon, le... Quelle jour on est, là ? Je ne sais jamais quelle jour on est. Dimanche ? Mes petits yeux, Samuel. Ouais, sinon, j'ai pas de petits yeux. Je n'ai pas du tout de petits yeux. Regarde. Je n'ai pas de petits yeux. Merci, Foki. Je viens de lire ton message. Merci beaucoup. Salut, Odé. Qui a assuré qu'on a fait une masterclass. Je vous rappelle qu'hier on a fait quand même une dinguerie sur un plan technique. On ne stream pas en sous-sol. On ne stream pas en sous-sol. On ne stream pas en sous-sol. On ne stream pas au moins un. Tous les gens qui font du stream IRL savent qu'on ne stream pas en sous-sol. Non. Parce qu'en sous-sol, au moins un, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de 4G. Il n'y a pas de Bouygues. Il n'y a pas de SFR. Il n'y a pas d'Orange. Il n'y a pas de Free. Il n'y a rien du tout. C'est la nuit. C'est le froid. Voilà, on est dans la toundra quelque part, dans la toundra de l'internet. Donc on ne stream pas. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quand le musée vous dit ah là là c'est super, notre plus belle exposition en ce moment, l'exposition sur médecine d'Asie au musée Guimet, elle est au moins un. On dit hey, non parce que en fait, c'est, on, non c'est pas possible, il n'y a pas d'internet. Et le wifi c'est très bien quand vous êtes assis à une table, mais quand vous vous déplacez sur 200 mètres de borne en borne, ça ne marche pas, hein. D'ailleurs il y a une chanson là-dessus qui s'appelle Born to be alive, born. Bref, je ne me disperse pas, ça n'est pas possible. Eh bien on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Merci Clamakine pour l'abonnement offert à la commune. On l'a fait. On nous a dit que c'était pas possible, alors on l'a fait. Joe est allé 4 fois sur place. 4 fois sur place pour voir si c'était possible. 2 heures avant l'émission, il me dit que c'est pas possible. Ça ne marche pas. Et on l'a fait, notamment avec François, un garçon nommé François de la technique du musée Guimet, qui s'est littéralement, si j'ai bien compris, promené à côté de Joe pendant toute notre promenade au moins un, avec une borne Wi-Fi et un câble de 30 mètres, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Le gars était là et je le voyais avec son long fil là. C'était incroyable. On l'a fait. Ouais. C'était incroyable. Vous l'avez pas vu ça, hein. Ouais. Le répéteur Wi-Fi vivant. Ouais. Incroyable, incroyable. Le mec était avec son truc dans ses petits bras là. Incroyable, incroyable. Oh, c'est fou. C'était génial, donc on l'a fait, voilà. Et vraiment le stream était de qualité, j'ai envie de dire, de qualité. Bon, bah, on va y aller, on va faire une petite revue de presse, hein. Ouais. Regardez la belle proposition de Bruce Wayne. Arrêtez de me donner des bonnes idées de stream parce que je vais finir par plus dormir. Bonjour Samuel, dit Bruce. As-tu déjà pensé à faire des streams autour des jeux de culture générale ? Une sorte de question pour un champion académie où tu entraînerais des viewers pour les motiver à participer à l'émission pour être super cool. Pop, 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 pop. On y a pensé ici. On en est au stade de la pensée, du concept, de la fulgurance, du jaillissement du tréfonds des neurones, mais pas encore. On n'a pas encore écrit cette émission, mais on y a pensé, c'est une super idée. Bruce, bravo. Ouais. Oui. Ouais. Et on pourrait inviter, qui on pourrait. C'est marrant, il y a un nom de streamer qui arrive dans le chat, là, je ne sais pas pourquoi. Ou qui on pourrait inviter pour participer à cette émission qui serait une espèce d'entraînement pour question pour un champion. Je me demande bien qui on pourrait inviter comme streamer, par exemple. Ah, il faudrait trouver un streamer qui aime bien question pour un champion, qui le réacte un peu de temps en temps. Qui on pourrait inviter? Je ne sais pas, je ne vois pas. Mais vous, par exemple, vous voyez bien. Hop, 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 Pépin Camille lâche 5 abonnements à la commu. Merci beaucoup. Bon. Non, Julien Lepers n'est pas streamer, je le rappelle. Il devrait d'ailleurs, c'est dommage, Julien ne stream pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous montre un peu les journaux, qu'est-ce qu'il y a ce matin ? Oh, Sarah qui veut me faire leak. les noms des invités de la dernière Hebdo Étienne de la saison qui est vendredi prochain. Est-ce que Anne-Elisabeth Lemoine, Babette Lemoine, Babette pour les intimes, j'ai travaillé avec elle il y a longtemps. La présentatrice de l'émission C'est à vous sur France 5, dans laquelle Monsieur Jean Massier d'ailleurs est venu récemment en tant que, non pas invité, mais chroniqueur carrément. Est-ce que Anne-Elisabeth Lemoine, la présentatrice de C'est à vous sur France 5, cette émission qui régale les neurones et les papilles des spectateurs sur l'excellent service public, va-t-elle venir dans l'Hebdo Étienne? Voilà. Et eh bien oui. Eh bien oui, je vous annonce que vendredi prochain, pour la dernière, la numéro 34 de l'Hebdo Étienne, la dernière de la saison 1, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, et beaucoup, et qu'on célébrera la saison 42 dans quelques temps, eh bien oui, Anne-Elisabeth Lemoine sera là, vendredi prochain. Ouais. Je peux même vous dire que Jean Massier sera là aussi pour la dernière. Voilà. Et d'autres. On va finir en beauté, ça va être énorme. Merci Estaki pour le gentil message que je lis, c'est adorable. Voilà. Ouais. La classe, hein? Classe. Hein. Jean Massier, le vainqueur de la Zinane, tout à fait, c'est lui. Eh oui, bien sûr. Évidemment que le vainqueur de la Zilane est là pour cette dernière, bien sûr. Bon, ça va, vous faites quoi ce dimanche, vous? Il fait beau, je crois. Hein. Allez, vous savez quoi? On lit les journaux et après on sort. On va dehors, on profite du soleil, on profite du joli mois de mai. Hein. 28 mai, il était temps qu'il fasse beau, quoi. Ça fait le mois de mai le plus pourri que j'ai connu de toute mon existence. Et je vous rappelle que je suis né en 1792, donc j'en ai connu des mois de mai. Je n'ai jamais connu un mois de mai aussi pourri. Jamais, jamais. Hein, le froid, la neige, hein. Le sirocco, le mistral, voilà. Les averses de grêle, ce mois de mai, voilà, incroyable, voilà, qui nous a saisi la gorge, au nez, aux yeux, qui nous a cassé les pattes, qui nous a cassé les genoux. Ça y est, ça s'arrange, ça, il fait de plus en plus beau. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est un petit stream à la cool pour se réveiller en douceur. Et puis après, on sort, quoi. Après, je vais aller courir un petit peu. Après, je retrouve Mimi Hegel pour... un petit rendez-vous, la podcast cinéma là, de tout à l'heure, là, vers 17h. Et après, je dîne aussi avec mon petit-neveu parisien, qui est étudiant en classe préparatoire, aussi brillant qu'il est gentil. Et voilà, c'est une belle journée, quoi. Voilà. On ne peut pas sortir, il faut rédiger son mémoire, dit Drew. Attends, mémoire. Le mémoire, rédaction du mémoire, le beau temps, le mois de mai, hein, la bonne humeur, les sourires, la décontraction. Des Parisiens, des Parisiennes en terrasse. Hein, ils subitement passent de renfrogné, mine dégueulasse, on se fait la gueule, à le bonheur d'être ensemble, de chauffer nos petits corps vieillissants au doux rayon du soleil du mois de mai. Moi, je dis... Il faut dire les termes. Je dis fuck le mémoire. Je dis fuck la rédaction du mémoire. Je dis profite de la vie. Je dis embrasse la vie. Voilà. Danse la vie. Voilà. Hein. N'oublie pas qu'il n'y a pas de mauvaise situation. Donc voilà. À un moment, le mémoire, tu le feras quand il fera pas. Tu le feras en février. Tu le feras en novembre. Hein. Tu dis aux gens qui attendent ton mémoire, là, je ne sais pas quelles études tu fais, tu dis écoutez, soyons sérieux. Je n'écris pas un mémoire le 28 mai, non, j'écris un mémoire en février, j'écris un mémoire en novembre. Gardons un peu les pieds sur terre et mettons un peu de raison dans ce monde irrationnel et fou. Voilà, je pense que ça passe. Je te ferai un mot si tu veux, je te ferai un petit mot. Voilà. Ou alors, comme le propose de façon un peu plus sympathique d'ailleurs Mav, un mémoire ça se rédige n'importe où ou même dehors. Ouais, va dans un parc, chope du wifi. Voilà, et écris-nous ton mémoire dehors, quoi. Hein, moi. Et quand on doit le rendre pour mardi, eh bien, je oubliez ma proposition de novembre et de février, et plutôt celle du viewer à l'instant, bah, vous sortez, vous allez au soleil, quoi. Et vous le faites dehors. Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, sommaire. Est-ce que vous me donnez le go? Est-ce que vous me donnez le G? Est-ce que vous me donnez le O? Est-ce que vous me donnez le Y, E, S?
Yeah, baby!
Oh, c'est mon préféré, celui-là. J'ai un go pour le petit sommaire, là. Yes, c'est parti.
Allez, go, go, go.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, je vous ai pas mis un milliard de trucs, je vous ai mis des choses bien. Il y a des, il y a des actus importantes qu'on a déjà évoquées hier. Par exemple, là, il y a un sommet international pour lutter contre la pollution du plastique qui débute demain. Je vous ai lu un papier hier, il y avait des papiers aujourd'hui. J'en reparlerai, mais comme j'en ai déjà parlé hier, je n'en reparle pas ce matin. Mais on a passé du temps sur un dossier de Libération hier sur le sujet. L'élection présidentielle en Turquie, deuxième tour, c'est aujourd'hui. Il y a des petits papiers, mais c'est hier, dans Libération encore, qu'on a lu un papier excellent là-dessus. C'est, oh là là, le raid de Citron Violet, je me régale. Citron Violet, c'est vraiment gentil. Hein. Je parle du raid dans un instant. J'ai expliqué que pas de papier aujourd'hui sur le deuxième tour de la présidentielle en Turquie. En revanche, demain, avec les résultats, oui, puisqu'on... De mémoire, l'info, on les avait eus le lendemain matin. Donc le lundi matin, on aura les résultats, j'en parlerai. Je remercie Citron Violet. Merci si les modos de mettre éventuellement la chaîne de Citron Violet, streamer français vivant au Japon, qui rigole, qui régale la communauté de ses streams IRL notamment. Belle communauté, puisque vous avez vu qu'on a été rejoint par plein de monde. Citron Violet, merci. N'hésitez pas, les modos que je vais saluer, à mettre la chaîne de Citron Violet. Tout en haut. Hop, papa, mais vous êtes super nombreux, c'est l'effet dimanche. Anonyme 31, je suis content de te voir. Julo 18, je suis content de te voir. MMG7F, je suis content de te voir. Pardon. Soleil Alan, je suis content de te voir. Nightbot, je suis content de te voir, même si tu es là tout le temps, je ne sais pas quelle machine tu fais, quoi. Donc, n'hésitez. Ah, voilà, elle est là, la chaîne de Citron Violet. N'hésitez pas à aller voir, c'est une super chaîne. Dolly, merci pour ton message. Je vois que du coup, tu vas aller au musée. Là tu parles du musée du Quai Branly. Oui, on est allé aussi. Et merci pour le sub. Voilà. Est-ce qu'on va parler de la Palme d'Or? Oui. Ouais. Tout à fait. Faut désactiver le bot expo. Ah ouais, pardon. Ah oui, j'ai mon bot qui que j'ai programmé hier pour vous dire où on était. Ça c'est l'ordinateur des raids, c'est l'ordinateur pour écrire mes projets sur Twitch, le petit Mac portable, c'est aussi l'ordinateur des bots. J'y vais, Julo. En direct live. Voilà. Voilà. Papy Sam va déconnecter son bot. Voilà. Petit bot. Petit bot de l'exposition Étienne. Tu n'es pas loin de te faire déconnecter. Profite bien de ces dernières secondes de liberté. Fais ton foufou. Fais ton foufou. Profite. Dans quelques secondes, tu vas être déconnecté. Alors, voilà. L'exposition Étienne avec Marie Palot, Fauqui, les responsables des collections, on visite le musée Guimet de 20h à 23h. Dans 3 secondes, tu es déconnecté. 3, 2, 1, bonne nuit. Voilà. Et pas impossible que si je continue à bosser, au mois de juin, on ait un dernier stream sur une exposition, sur un musée en juin, voilà, pas à Paris cette fois. Voilà, je suis en train de vous caler ça, ce qui ferait la 7e exposition Étienne. Mais c'est fou. 7e stream dans un musée, quoi. C'est top. Voilà, je suis en train de bosser là-dessus. Bon, je vous le disais, on est en plein sommaire, même si je fais plein de pas de côté, comme d'habitude. Donc, la une du Parisien, il y a une interview de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui répond à la droite en disant « Ah, mais chiche qu'on travaille ensemble sur la question de l'immigration, de ce projet de loi sur l'immigration qui devrait arriver bientôt. » Donc à droite, c'est un peu la surenchère. On dit « Ouais, ouais, nous, on veut bien voter votre truc, mais par contre, on va bien durcir le texte, ok ?» Et donc Gérald Darmanin tend la main en disant « Ouais, non, alors ouais, on peut durcir, mais pas surtout, hein, parce que c'est un peu hardcore, votre truc. » Voilà, on attend d'y revenir. Je vous fais l'impasse de cette interview du ministre de l'Intérieur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être, par exemple, vendredi prochain avec Jean Massier dans l'Hebdo Étienne, sachant qu'on parlera aussi de la réforme des retraites, puisque le 6 juin et le 8 juin, il y a deux dates importantes sur la réforme des retraites. Voilà, donc là, je fais l'impasse sur cette interview. Par contre, ça, je vais vous en parler. Ces derniers jours, j'ai lu plusieurs interviews de ce monsieur qui s'appelle Judy Kael Irel. Qui est un breton, mais c'est pas pour ça que je vous en parle. Il vit à Paris, comme on témoigne cette photo du métro parisien. Il y a quelques années, il y a 6 ans, ce monsieur, Judy Kael Irel, il a pris la défense d'une jeune femme qui se faisait agresser dans le métro parisien. Voilà. Son agresseur l'a retrouvé quelques mètres plus loin et lui a dézingué la tête, lui a explosé la tête. Il a eu le visage en littéralement en 1000 morceaux. Je crois qu'il a 50 plaques de titane dans le visage. Et il raconte. Voilà. Il publie un livre où il raconte ça. Il remercie la jeune femme parce que cette agression visait manifestement à le tuer. En fait, l'agresseur s'est acharné sur lui. Et en fait, c'est la jeune femme. Donc, il avait secouru quelques secondes, minutes auparavant, qui est venu le défendre, qui s'est jeté sur lui, sur son corps, pour le protéger des coups de pied dans la tête que l'autre taré, qui n'a jamais été retrouvé, lui donnait. Donc, il écrit ce livre pour remercier cette jeune femme. Pour lui, la vraie héroïne, c'est ça. Il a écrit ce livre aussi pour dénoncer l'insécurité dans les transports en commun. Et le fait que ce qu'il a découvert lui à la lumière de cette agression, le fait que en fait les femmes dans l'espace public, et notamment dans les transports en commun, sont toujours sur leur garde, toujours en méfiance, toujours en stratagème pour éviter eh bien ce type d'agression. Donc il fait un livre extrêmement intéressant et l'article s'appelle Concorde Rouge. Pourquoi Concorde Rouge? Puisque l'agression a eu lieu au métro Concorde à Paris. Voilà, on lira ça parce que je voudrais saluer le courage de ce garçon et puis évoquer les thématiques aussi qu'il met en avant. C'est super intéressant. Voilà, ça je trouve c'est important. Un petit peu de foot. Bah, on parle pas de foot tous les jours et c'est pas histoire de parler du PSG, mais bon, bah voilà, c'est plié. Le PSG, on est à combien? 11e titre de champion. C'est historique. Jamais un club de l'élite en France avait gagné 11 titres. Donc, à un moment, il faut le dire. En plus, après avoir mené en étant leader de la première à la dernière journée, ça aussi, en fait, c'est une grande première. Donc, rapidement, quand même, même si le PSG a raté sa saison par ailleurs, Coupe de France, Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc, on le dira rapidement. On fera un petit point sur le classement général en cette fin de championnat, voir quelles sont les équipes comme Lens, par exemple, qui vont pouvoir disputer des Coupes européennes. Le Ligue des Champions pour Lens, c'est énorme aussi, quoi. Puis, on ira voir en bas de classement ceux qui sont menacés de relégation. Il reste combien de journées, les amis, les champions, là? Vous qui maîtrisez un peu le foot, là. Mieux que moi, on est la 37e journée. Il reste combien de journées? Il reste une seule journée. Voilà, merci beaucoup. Les 100 et or, bien sûr. L'horoscope, obligé, l'horoscope. Le journal du dimanche qu'on lit parce qu'on est le dimanche. Le JDD, c'est un journal intéressant parce que c'est un quotidien dans la forme. Oh, c'est clairement un quotidien, c'est pas un magazine. Un journal comme Le Parisien, comme Le Monde, comme Libération, La Croix, tout ça. Mais qui sort une fois par semaine. Donc c'est un quotidien, c'est un quotidien hebdomadaire. C'est un journal qui a la forme d'un quotidien, mais qui sort une fois par la semaine, qui sort le JDD, qui s'appelle donc le journal du dimanche. Je fais l'impasse sur l'interview du président de région, Laurent Wauquiez, là, politique. Bon, ouais, ça va, ça ne prend rien de nouveau. Par contre, je vous lirai un truc que j'aime beaucoup dans le JDD, qui est l'agenda de la semaine. On va se pencher sur les événements importants à venir prévus cette semaine. Ça c'est plutôt bien fait, on est page 6 là. Parfois je vous lis des articles qui sont en une, en couverture, qui sont dans les premières pages parce qu'ils ont été jugés très importants par le journal, et parfois je vais chercher un tout petit peu plus loin. Là par exemple, j'ai été assez bluffé, touché par cet article qui est page 38. Vous voyez bien que je ne vous lis pas tout, d'ailleurs n'hésitez pas vous à acheter la presse pour aller au-delà de mes choix très subjectifs. Et là vous avez une double page ou une triple page sur les humoristes handicapés, en situation de handicap, parce que le JDD en fait fait le constat qu'il y a une nouvelle génération d'humoristes handicapés qui font le pari de la scène pour eux-mêmes, pour exister, pour aller au-delà de leur handicap et pour contribuer aussi à changer le regard de la société sur le handicap. Top. Voilà. LG Grotto me parle de Guillaume Batz, par exemple. Excellent. Bon, moi, j'avoue que j'ai découvert un petit peu plein d'artistes, là, comme cette jeune femme que vous voyez ici qui est malvoyante. Eh bien, on ira lire cet article et puis peut-être se faire quelques petits sketchs et découvrir ensemble des trucs. Hop, double page, très sympa. Alors, évidemment, l'actualité du week-end a été marquée par la fin du Festival de Cannes, la Palme d'Or et une polémique. Alors, évidemment... ça a été extrêmement présent sur Twitter ces dernières heures. J'ai l'impression que le monde s'était arrêté, la guerre, il n'y avait plus de guerre en Ukraine, il n'y avait plus de crise des retraites, il n'y avait pas de problème par rapport à l'inflation en France, il n'y avait voilà, plus de problème d'insécurité dans notre pays, il n'y avait plus qu'une seule polémique, actualité sur Twitter, c'était le discours de la réalisatrice Justine Triet. Donc ça, c'est l'info sur Twitter, comme d'hab. Bon, est-ce qu'il faut en parler? Oui, bon, c'est vrai que finalement j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais on va pas en parler deux jours, on va en parler cinq minutes, on lira cet article. Peut-être qu'on ira voir l'extrait aussi qui a provoqué toutes ces polémiques. Hein, voilà. Quoi d'autre? Ah, bon, c'est un peu parisien quand même, mais ça nous parle d'écologie et ça nous parle de mobilité, donc pourquoi pas. Il y a une voie dédiée. Oh, j'ai le nez qui pique, les pollens. Vous aussi, vous avez une équipe pique. Une voie dédiée sur le périphérique qui fait polémique. Qu'est-ce que c'est? À l'occasion des Jeux Olympiques, il y a une voie sur le périphérique parisien qui est la voie de gauche. Rien à voir avec la politique, hein, c'est la voie où on est censé aller plus vite. Sur le périph' qui va être réservé au covoiturage, au taxi pendant les JO. Sauf que le projet de la mairie de Paris, c'est après les JO de laisser cette voie à gauche au taxi, au covoiturage, etc. Donc, eh bien, on se penchera sur ça. Il y a une consultation qui se termine aujourd'hui, je crois, une espèce de référendum sur Internet qui a été lancé par la mairie de Paris, où a priori, en fait, l'immense majorité des avis sont négatifs. Et c'est amusant parce que ça a été lancé par la mairie de Paris, mais en gros, du côté de la mairie de Paris, on s'en carre un peu le cul, hein, puisque a priori, ça va être fait. Donc, on se penchera un petit peu sur ce dossier. Voilà. Monsieur Dodo, oum, Monsieur Dodo, tu as raté l'hebdo Étienne de vendredi, toi. Monsieur Dodo nous dit, tu as parlé des sans-abri expulsés de Paris pour les JO. C'était même l'un des quatre thèmes qu'on a abordé vendredi soir dans l'hebdo Étienne numéro 32. Donc, tu peux aller voir le replay. Et puis, du côté du Monde, la dernière édition du Monde, là aussi, je suis allé assez loin dans les pages. Voilà, là, c'est pas page 4, c'est page 4 d'un cahier qui est du Monde qui s'appelle L'Époque, un excellent cahier. Donc je suis allé un peu au-delà des gros titres pour vous raconter une très belle histoire. Celle d'une adolescente qui s'appelle Loéline, qui a 17 ans, qui est trisomique, qui est atteinte de trisomie 21 et qui est assez extraordinaire par tout ce qu'elle fait. Voilà, elle travaille, elle étudie, elle fait des défilés de mode, elle fait des défilés de beauté. Une jeune femme assez incroyable, et je trouvais son portrait extrêmement touchant. Et puis c'est aussi une réflexion sur l'inclusivité, bien sûr, des personnes en situation de handicap. Donc je voulais partager cet article avec vous. C'est pas mal, hein, vous voyez. J'ai mis de côté un petit peu pas mal ce matin les mauvaises nouvelles pour vous lire plutôt des choses un peu qui donnent de l'espoir et inspirantes. Voilà.
Voilà.
Est-ce que ça vous va comme menu? Est-ce que vous vouliez qu'on parle d'autre chose? Parce que je suis aussi là pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui ont attiré votre attention et qui vous passionnent et que vous auriez voulu que je mette en avant? Auquel cas, je pourrais chercher un article, voire vous dire qu'on en a parlé hier et dans ce cas-là, c'est en replay, ou qu'on va en parler demain et dans ce cas-là, c'est demain. Est-ce que c'est bon pour vous? Comme dit QB17 dans le chat. Oui, j'ai votre oui. Est-ce que j'ai votre... Ouais, remake, on va en parler du tweet de la ministre de la Culture sur la Palme d'Or, oui. Il y aura pas un quiz Pokémon parce que ma petite famille est en week-end. Voilà. La Palme d'Or, ça vous plaît? Tombe bien, on va en parler. L'histoire des étudiants virés de leur chambre pour les JO, on en a déjà parlé dans l'hebdo Étienne il y a 15 jours, je crois. Voilà, c'est en replay. La TVA réduite sur l'e-sport, on en a parlé dans l'hebdo Étienne de vendredi. Je savais en fait que j'allais vous dire, mais on en a déjà parlé. La petite fille retrouvée kidnappée par son père. Alors, on ne fait pas trop les faits divs ici, sauf quand vraiment ils sont très éclairants sur un sujet de société. Donc, je suis comme vous les faits divers, surtout quand ça touche les enfants, parce que évidemment on s'inquiète. Mais voilà, on n'est pas sur une chaîne d'infos en continu non plus. Donc, pour ce genre d'infos, ce n'est pas tellement dans la revue de presse. Sauf si vraiment ça provoque un débat, une réflexion sur quelque chose au niveau de notre société, quoi. Ouais. Début de Roland-Garros, on en a parlé un petit peu hier et on va en reparler demain. Laurence, qu'est-ce que c'est ce sujet? Tiens, alors là, tu piques ma curiosité, Anonyme 31, parce que je suis pas au courant. Anonyme 31 me dit, est-ce que si le fait de parler de Florence Mendez virée est incliné dans le sujet sur le handicap, c'est bon, sinon tu peux en dire un mot, Florence Mendez. Tiens, ah, eh ben ça me parle pas. Ou alors, ça ne me parle plus. Florence Mendez. Quesaco, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, tiens, il y a une affaire là, qu'est-ce que c'est? Alors, cherchons une source de qualité. Je vois un article dans le Huffington Post. Nicole Ferroni, donc, qui est une humoriste que je connais, qui est très bien, demande le retour de... Pardon, je vous mets la scène. Qu'est-ce que c'est, histoire? Merci Anonyme 31 d'avoir attiré mon attention là-dessus. Demande le retour de Florence Mendez, donc en interpellant M6 dans un poste plein d'ironie. Chroniqueuse dans Piquante, l'émission de Nicole Ferroni, Florence Mendez a été écartée de l'antenne de Teva, qui est une chaîne du groupe M6. Elle pointe une altercation avec Gérald Darmanin. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes au courant, vous? Une humoriste virée car elle a traité Darmanin de violeur, me dit Akumada. Hein? Une mise à l'écart qui reste en travers de la gorge, évincée de l'émission Piquante sur Teva parce que, dit-elle, elle a lancé en pleine rue un Darmanin violeur au ministre de l'Intérieur fin mars devant le siège du groupe M6. Florence Mendez a reçu donc jeudi un soutien de poids en la personne de Nicole Ferroni, qui est humoriste et qui est la présentatrice de l'émission où elle officie encore récemment avant de se faire remarquer, remercier. D'accord. Donc il y a un long message de soutien, bravo Nicole Ferroni, parce que c'est du courage quand même, parce que du coup peut-être qu'elle se met en danger par rapport à son employeur aussi quand même. Donc l'ancienne chroniqueuse de France Inter vient au secours de sa consoeur, dont le groupe M6 ne veut visiblement plus, après l'incartade avec donc le locataire de la place Beauvau, accusé de viol en 2017, mais qui a bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire, on va le rappeler. Non-lieu confirmé en appel. Même si il y a cassation, puisque la plaignante a annoncé son pourvoi en cassation. Ok. C'est intéressant. Et du coup, Nicole Ferroni, qui a beaucoup d'humour, quelqu'un que j'aime beaucoup, fait une proposition pour que la chroniqueuse puisse garder son poste, revêtir Florence d'un sombrero et d'une grosse moustache, la renommée Pedro Sanchez, j'adore, pour l'ensemble de la saison 4, afin qu'elle puisse travailler avec nous. C'est pas mal, ça. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire? Du fait que Florence Mendez a donc interpellé le ministre de l'Intérieur dans la rue en le traitant de violeur? S'il y a non-lieu, écrit Kourskinou, elle ne peut pas dire violeur. Elle peut pas dire violeur, c'est une faute. Soutien total à Florence, écrit Tisane Time. J'aurais fait la même chose, me dit Lina. Elle a eu raison, me dit Oz. Elle a raison, me dit Wejmatic. Diffamation et potentielle recherche de buzz, nous dit Widar. Elle a raison, me dit MMX. Elle est courageuse, me dit Gomme. Diffamation sur la voie publique, c'est mérité, estime au contraire Flèche Azur. Elle est en tort, mais le fait de l'avoir écartée, c'est un peu abusif, estime de Coldfire. Peut-on remettre en question le non-lieu, se demande Tontonda. Merci au One Shot Xy pour le 19e mois d'abonnement, c'est quand même beaucoup. Aucun avis, me dit Silent Cheetah. On n'est pas un endroit où on est obligé d'avoir un avis ici, on peut être aussi en réflexion sur les sujets et avoir besoin de temps pour avoir un avis. Ici, c'est pas la dictature de la conviction à tout prix. Darmanin peut porter plainte, c'est pas à son patron de prendre des mesures, me dit Sidonie. Elle s'est elle-même mise en faute, estime Benoît 35. Peut-on parler de diffamation si elle ne l'a pas dit pendant l'émission et juste dans la rue, se demande Juline. Elle n'a pas raison, mais ça n'est pas un motif de licenciement, dit encore Nakero. Intéressant. Ok. Merci en tout cas de m'avoir signalé cette histoire. Je n'étais pas au courant. Vous voyez qu'il y a pas mal d'articles. Hein. Il y a un article sur le Huffington Post, il y a un article dans 20 minutes, il y a un article dans Ouest France, il y a un article dans Le Parisien. Ok. Eh bien, je vais suivre. TV Magazine, ça dépend du groupe Le Figaro, vous voyez. Donc là, c'est la chroniqueuse en question, c'est Florence Mendez. Florence Mendez, d'ailleurs, qui s'explique sur son geste, ou plutôt ses mots. Le mercredi 29 mars, j'ai donc croisé Gérald Darmanin qui sortait du bâtiment de M6 à Neuilly, où je me rendais pour enregistrer l'émission Piquante. J'étais encore dans la rue lorsque j'ai aperçu Darmanin, et devant les services de sécurité, je l'ai traité de violeur. Ça n'était pas prémédité. J'ai été dépassé par mes émotions, explique Florence Mendez. Mais cette scène, plusieurs personnes en ont été témoins, notamment, ah ouais, les membres du service de sécurité qui l'ont dénoncé, dit-elle. Et du coup, Gérald Darmanin, manifestement, s'était rendu compte de rien et il a pris cette histoire dans la presse. Convoqué par la direction du groupe M6, Florence Mendez a alors appris qu'elle ne terminerait pas la saison 3 en cours de Piquante et qu'elle ne prendrait pas part à la saison 4. J'ai donc perdu mon taf. Je conteste la sévérité de la sanction, me priver de mon travail, d'une partie importante de mes revenus, après 3 années d'une collaboration impeccable pour un propos irréfléchi tenu sans publicité. C'était dans la rue, c'était pas à l'antenne. C'était un peu cher payé, mais un jour, dans ce monde d'après pour lequel nous sommes nombreux à nous battre, je sais qu'on rira de tout ça, dit-elle. Vous êtes plusieurs à faire référence aussi au fait à son autisme. Il y a X-Moon qui écrit, elle a aussi dit qu'elle était autiste et parfois sans filtre. C'est aussi pour cela qu'elle avait été embauchée. Ok, bah merci en tout cas parce que je n'étais pas au courant de cette histoire, que je n'avais pas vue dans la presse. Merci beaucoup. Voilà. Une espèce de before, une espèce de carte blanche voilà, pour commencer. One Shot Xi pour le 19e mois, je te remercie à nouveau, je l'ai fait tout à l'heure. Fenrir 9 pour le 2e mois, un grand merci. Eden Blaster, salut Hugo, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup pour le 14e mois. Voilà. Ça va. Allez, let's go. On est parti et après. On ira prendre le soleil, on ira courir, on ira se prendre du bon temps. Tous ensemble, vous êtes 2500, donc on ira faire un super footing tous ensemble. 2500, ça va être un joli footing. Voilà. Vous n'habitez pas à Paris, je m'en fiche, vous prenez le train. Voilà. Vous venez en courant, ça vous fera un petit échauffement. Donc je vous attends, on va dire aux alentours de... Je pense que cette revue de presse va nous emmener vers jusqu'à 13h, 13h30. Donc rendez-vous à 13h, 13h30. On pourrait partir d'où ? Pour le footing, on pourrait partir. Tiens, on se donne rendez-vous devant le siège d'M6, hein, si vous voulez, pour notre rendez-vous de footing. J'espère qu'on ne croisera pas le ministre de l'Intérieur et j'espère que vous saurez vous tenir si c'est le cas parce que hein, j'aimerais pouvoir continuer à bosser. Ah, mais je ne travaille pas pour le groupe M6, donc ça va. On y va ? Devant le siège de Total, me dit Shakespeare. Vous cherchez vraiment les ennuis. Vous cherchez vraiment que le 1. Hein, vous voulez vraiment que j'ai des problèmes, hein, que je perde tous mes revenus, hein, que je voilà. Et comment je vais nourrir mes enfants de bâtons de surimi, moi, hein, comment je vais pouvoir leur donner leur surimi et Babybel quotidien. Oui. C'est parti. Allez, c'est parti, Le Parisien. On fait l'impasse justement sur l'interview du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui tend la main à la droite. Pour dire, allez, votons ensemble notre projet de loi sur l'immigration, on aura l'occasion d'en reparler. Patrick Cohen, Joleux, on en a parlé longuement hier, c'est dans la revue de presse, tu l'as, en replay. Par contre, je vais vous parler de ça, parce que je voudrais saluer ce monsieur, son courage. Il s'appelle Judicaël Hirel, il a été agressé dans le métro il y a 6 ans, après être intervenu, après qu'une jeune femme ait été agressée dans le violent. Il en a pris littéralement plein la gueule. Et aujourd'hui, il écrit un livre pour parler de ce qu'il a vécu, mais aussi des sujets de société que cette histoire recouvre. Son but, c'était de me tuer, les mots en exergue de Judicaël Hirel, mis en avant par Le Parisien ce matin. 6 ans après l'agression ultra-violente, vous allez voir, c'est hardcore, impuni, puisque l'auteur n'a jamais été arrêté, qui lui a brisé le visage dans le métro. Judika Elirel publie donc un livre qui s'appelle Concorde Rouge, parce que les faits se sont passés à la station Concorde à Paris, dans lequel il raconte comment la jeune femme qui l'a protégée lui a sauvé la vie. C'est aussi une façon de remercier cette jeune femme. Ce changement de ligne dans les entrailles du métro parisien, au métro Concorde à Paris, Judika Elirel, 50 ans, l'avait effectué des centaines de fois sans y prêter attention jusqu'ici. Jusqu'à ce 13 novembre 2017, où sa vie bascule, parce qu'il intervient au secours d'une jeune femme agressée par un inconnu ivre. Ce père de famille est pris à partie par cet homme qui le roue de violents coups à la tête. Son visage est brisé en 14 fractures. L'assaillant ne sera jamais identifié. Cinq ans après ? Ah, c'est marrant parce que le titre dit 6 ans après, l'article dit 5 ans après, ça arrive. C'est un moment que on écrit un peu vite, on fait une petite faute. On parle de 2017, donc 2017 plus 6 ans, ça fait 2023. Donc a priori, c'est 6 ans. 6 ans après, je corrige, il a décidé de raconter son Concorde Rouge, un récit empreint de colère où il se défend d'être un héros, là où tant d'autres pourtant auraient passé leur chemin entretien. Question du Parisien, qu'est-ce qui vous a poussé à intervenir, à défendre cette jeune femme ? Réponse de Judika Elirel. Il était environ 19h30, je rentrais du bureau par la ligne 8 à Concorde, je sors de la rame de tête pour reprendre la une. Quelques stations avant, j'avais remarqué cet homme ivre et un peu bizarre avec une bouteille à la main. Nous sommes trois à descendre, une jeune femme, lui et moi. Lui monte les escaliers derrière elle et lui met une énorme main aux fesses. Elle enlève ses écouteurs, se retourne et proteste. Je vois la scène, il s'engueule. Je me suis dit l'étape suivante, c'est qu'il va l'attraper, peut-être la frapper. Je suis intervenu sans réfléchir, par réflexe, pour moi c'était une évidence. Comment vous interposez-vous ? Lui demande le Parisien. Je lui dis calmement, ça suffit. Il s'est mis en garde, tu veux te battre ? Me dit-il, je n'avais pas le temps pour ça. Je suis parti avec la jeune femme dans le long couloir qui traverse la place à cet endroit. En 20 ans de pratique du métro, j'étais déjà intervenu plusieurs fois. Quand on mesure 1m80, qu'on est calme, ben, ça suffit à gâcher le plaisir du fauteur de troubles. Jusque-là, ça s'était bien passé. Puis là aussi, ça s'est bien passé puisque l'agresseur disparaît. Et puis au détour d'un couloir, il se souvient avoir vu tout rouge et puis tout noir et puis plus rien. Que s'est-il passé ? Demande le Parisien. J'ai su après qu'il s'était embusqué. Il a remis sa capuche. Il est revenu me frapper par derrière d'un grand coup de poing avec sa bouteille. Il m'a explosé la tempe. J'ai perdu connaissance. Je suis tombé au sol. Il a continué à me bourrer la tête de coups de pied. Son but, c'était de me tuer. Et ça n'est pas passé très loin. La jeune femme s'est jetée sur moi en criant. Ma double chance, c'est qu'elle m'a protégé et que les os de mon visage se sont émiettés au lieu de s'enfoncer. Elle m'a sauvé la vie. Voilà. Polo le mytho, je ne comprends pas ta question, il y a Polo le mytho qui écrit « Est-ce qu'on doit se faire justice soi-même ? » J'espère que tu ne parles pas de ce monsieur qui est intervenu pour protéger une jeune femme d'une agression en cours. Parce que j'espère que tu n'es pas en train de dire ça, parce que ça voudrait dire que toi, à la place du monsieur, tu n'aurais rien fait en fait. Donc tu aurais laissé la jeune femme être agressée. J'espère que c'est pas ce que tu veux dire et que j'ai pas compris ton message, puisque je pense qu'intervenir dans le métro pour empêcher une agression en cours, je ne crois pas. Ah si, tu insistes. Polo le mytho dit si, je parle bien de ce cas particulier. Ok. Je ne veux pas croire que tu dis qu'intervenir pour empêcher une agression, c'est se faire justice soi-même. Dis-moi que je n'ai pas compris. Polo le mytho, je ne suis pas un policier, j'appelle la police. Bien sûr. Ce que Judika Elirel raconte dans ce livre, que ce qui l'a choqué, c'est qu'en fait, personne n'est intervenu, que plein d'autres personnes ont vu l'agression en cours et que personne n'est intervenu, que personne n'a appelé la police et que ça le dégoûte en fait quoi. Donc ce que je comprends, pardon Polo le mytho, je suis un peu agressif, mais toi tu en fait tu aurais été comme l'une de ces personnes dénoncées par ce monsieur qui a été très courageux et qui s'en est pris plein la gueule, c'est-à-dire que tu n'aurais rien fait, tu aurais peut-être appelé la police, et évidemment le temps que la police arrive, c'est-à-dire 2 heures après, je ne sais pas ce qui serait arrivé à cette jeune femme. Bon, mais bon, ok, d'accord, très bien. Je ne suis pas d'accord avec toi, évidemment. Le Parisien relance Judith Alirel. Vous reprenez conscience sans réaliser la gravité de vos blessures. J'avais 14 fractures au visage. Je n'ai compris que ce que ça signifiait qu'après 2 jours, quand les internes de l'hôpital m'ont dit si il n'y avait pas la peau de votre visage tomberait. Il a fallu placer 50 plaques de titane pour refixer les os. J'y ai gagné un lifting gratuit et un nez droit, Samustil. 5 ans après, quelles sont vos séquelles? Je fatigue très vite, mon visage me lance parfois, sa partie gauche est en partie insensible, c'est comme une rage de dents en permanence, sympa. Quand j'ai trop mal, je prends ce qu'il faut, la douleur me coupe socialement, j'ai notamment voulu écrire ce livre pour sortir de ma bulle, parler de mon histoire pour contribuer à ce qu'on ne parle plus des victimes, qu'on parle plus des victimes et moins des agresseurs. Sinon cette femme, dit le Parisien, aucun passager ne vous a aidé, donc ça va plus loin. C'est-à-dire que non seulement aucun autre passager du métro est intervenu pour protéger cette jeune femme de l'agression d'un homme ivre et menaçant, mais personne non plus n'est intervenu pour venir en aide à Judith Alirel qui est en train de se faire défoncer. Je connais quelqu'un dans le chat qui nous dirait « ce n'est pas bien de se faire justice soi-même ». Comment considérez-vous cette passivité? Ah ben, qu'est-ce que pense Judith Kael Irel de cette passivité justement qu'on ne découvre pas hein, c'est, on sait que c'est un grand classique hein, bien sûr, que personne n'intervient quasiment jamais quand il y a une agression dans le métro, dans les transports et qu'on préfère détourner les yeux. Et il répond, c'est compréhensible parce qu'aujourd'hui la peur est intégrée, celle de prendre un mauvais coup, de se mêler de quelque chose qui ne vous regarde pas. Or, je pense que cette peur, elle est croissante dans les transports en commun, et pas seulement en Île-de-France. Pour avoir regardé les statistiques au microscope, la réalité, ce sont près de 130 000 agressions déclarées dans les transports chaque année, soit plus de 300 par jour. Cette insécurité que l'on masque, selon moi, par crainte des extrêmes, hein, par crainte de nourrir le discours des extrêmes, c'est malheureusement le quotidien des grandes villes, ça peut arriver à n'importe qui. Vous dites avoir réalisé, dit le Parisien, que les femmes, les jeunes femmes en particulier, étaient en première ligne. Et Judith Kael Irel dit « Mon agression m'a fait prendre conscience qu'elle développe sans cesse des stratégies pour éviter de se mettre en danger. Elle porte ce poids au quotidien. Cela me met en colère car c'est inacceptable et que tout le monde a l'air de trouver ça normal. » Fin de l'article. Est-ce que vous reprenez le métro? Et Judith Kael répond oui. Et à chaque fois que je passe par la station Concorde, j'ai l'impression de faire un pèlerinage là où j'ai failli mourir. Quant au métro, il m'est utile puisque c'est là que j'y ai écrit mon livre, comme quoi je ne suis pas rancunier. Et encore, il arrive à en sourire. Bon, je vous lis un petit peu là-dessus. Assez étonné par un commentaire de monsieur le mytho là. Bon, pourquoi? Voilà, mais du coup, ça éclaire pas mal de choses cet article. Juste gros merci pour les bits. Houblon Nippon, un grand merci pour le 13e mois d'abonnement. Mamie Colette, je suis arrivé à Paris 2 mois après 2 agressions dans les transports. À quelle heure est arrivée l'agression? Je crois qu'on le sait. Altan, il est 19h30. Voilà. Bon, on peut dire qu'il y a un petit peu de monde dans le métro. On est un peu en heure de pointe, quoi. Je vous lis. « Lucy in Blue écrit dans le chat, il faut pas se leurrer, personne n'intervient depuis bien longtemps. Des agressions dans les transports en commun, j'en ai connu. Et à chaque fois, je m'en suis sorti seul, même dans un train bondé en heure de pointe. Voilà. En heure de pointe. Et c'est la confirmation exactement du discours de Judica Elgrel. C'est quand même incroyable. Mme Guanac dit, pourtant il suffit d'une personne qui bouge et ça peut débloquer d'autres personnes. Docteur Senseto, essaie d'expliquer le fait que plein de gens n'interviennent pas. Désolé Samuel, il y a tellement de fous dans le métro, tu défends quelqu'un et tu te prends un coup de couteau, quoi. Lucien écrit, n'oubliez pas que si ça vous arrive et que vous avez peur d'intervenir, vous pouvez demander de l'aide autour de vous pour bouger à plusieurs. Le souci, c'est le manque de présence d'agents RATP dans le métro, nous dit Spirda. Alors, El Gabio est un peu plus optimiste que nous et dit, personnellement, je vois pas mal d'entraide dans les transports. Tout le monde se dit, quelqu'un d'autre va intervenir et c'est ça le problème, nous dit The French Ghost. Depuis que je me déplace en vélo, ma vie de jeune femme est bien plus simple, plus aucune agression, nous dit Pinguini dans le chat. Il n'y a pas un soir. Donc là, ce sont des viewers qui nous parlent. Je pense que c'est important de lire ces commentaires. Luana s'écrit, il n'y a pas un soir où je n'ai pas peur de me faire agresser dans les transports et c'est épuisant. Comment cela a pu se dérouler à une heure d'aussi grand trafic, ça me dépasse, me dit Altan. Kuramalise participe à notre débat en disant en tant que femme, il est parfois difficile d'intervenir de peur de violence physique. On pourrait débattre sur le fait qu'il s'agisse de lâcheté ou juste d'avoir conscience du risque potentiel. En revanche, il m'est déjà arrivé, voyant une femme en difficulté, de faire semblant. L'article va revenir. Hop. De faire semblant de la connaître pour la sortir de là et de l'emmener plus loin. Bougez pas. Ah bah c'est juste notre... Bougez pas, je vais vous mettre l'article. Parfois, un petit câble qu'on débranche, qu'on rebranche, et ou un petit relancement de l'appli, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hop, je vous remets ça tout de suite. Quick, quick, quick. Je fais des petits bruitages aussi qui vont bien. C'est intéressant ce sujet quand même, hein. On est bien au-delà du fait divers. Oui, tout à l'heure, je vous disais, je ne vous parle pas des faits divers, sauf quand je pense qu'ils éclairent un sujet de société. Voilà. Et en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Alors, pourquoi j'ai perdu l'article ? Parce que j'ai, notamment parce que j'ai laissé ma petite, ouais, un petit truc de capture d'image là, branché toute la nuit. Et je pense qu'il a un peu chauffé. Je suis en train de vous réparer ça à l'ancienne, en mode ingénieur. Bon. Alors, réparons pour poursuivre la petite revue de presse. Ah, c'est reparti. Voilà. Quatre problèmes techniques. Jamais perdre son sang-froid. Y aller tranquillement. Tenter les deux, trois trucs habituels. On débranche, on rebranche, on relance l'appli. Et je pense qu'on est reparti. Voilà. Voilà, super. Alors, je lui ai encore un de messages et puis on enchaîne. Ah, ma gamme a frisé. Ah oui, c'est normal. C'est normal puisqu'à partir du moment où on touche à ça, après c'est la caméra qui frise. Et là, c'est rien aussi. Voilà. On va désactiver. Et réactiver la caméra. Voilà. Et hop. Vous avez vu ? À la cool, hein ? Voilà. Bon, ça, il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand j'ai commencé à streamer, ça aurait été la panique. Hein. Je me serais arraché les cheveux. Maintenant, on y va tranquillement. Regarde. The French Ghost écrit : une fois, j'ai fait une chute en pleine rue. Je me suis cassé la jambe. Hein. Il y avait plein de monde en terrasse. Personne n'est intervenu. Alors, à part une personne âgée, alors que je criais de douleur. Voilà. À préciser que j'étais un enfant à cette époque. Ça montre bien qu'il y a un gros problème. Voilà. C'est fou quand même. Hein. Alors, SC2A, il écrit, et je trouve l'avis intéressant aussi, je vous remets l'article, hop. Quand on voit que tout le monde ici est sûr qu'il agirait et qu'en réalité personne n'agit, je me dis que peut-être on sous-estime la difficulté à agir dans ces cas-là. Je crois que tu as raison. Mais je suis très content d'avoir eu ce débat avec vous. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, bon, on passe du coq à l'âne, vous allez me dire, mais bon, l'actualité, c'est ça aussi. On va parler rapidement de sport, de la fin du championnat de Ligue 1 et revenir à des choses un peu plus sérieuses tout à l'heure. Même si le foot, ça peut être très très sérieux aussi. Tidraux, Xalis, merci pour le 22e mois d'abonnement. Kuramali, j'avais pas vu ton sub, merci beaucoup. Donc le foot, allez, un petit coup d'œil, parce que c'est quand même la fin de la saison, et ça y est, on le sait. Ouais, je vois qu'il y a des supporters de Lens, il y a des supporters de l'OM dans le chat, il y a peut-être des supporters du PSG. 11 fois champion de France, c'est un 11e titre. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du football français, et leader de la première à la dernière journée. C'est bizarre qu'ils disent ça parce qu'il reste encore une journée. Ils peuvent plus être attrapés, je suis bête. Et donc ça n'est jamais arrivé non plus. Donc c'est quand même quelque chose. Je vois un aller Nantes d'Armoz, effectivement, parce que Nantes est menacée de relégation. On lit ça rapidement pour faire un petit point. Flush Paco, merci pour le 21e mois d'abonnement. Paris marque l'histoire, donc pour les deux raisons que je viens d'évoquer, mais pas les esprits, c'est un peu le paradoxe. Le PSG ultra dominateur en championnat, mais malgré tout, dont la saison a été parfois décevante et parfois et souvent critiquée. À défaut d'avoir su faire le show, le leader de Ligue 1 a officiellement décroché son 11e titre de champion du monde en demeurant en tête de la première à la dernière journée. Donc ça c'est fait après un match nul sur la pelouse de Strasbourg, 1-1. Paris a décroché en Alsace un 86e point, match nul 1 point, synonyme donc de couronnement, Paris qui ne peut plus être rattrapé. Chacun le sait, ce succès n'enlèvera rien, un exercice, une saison éprouvante, décevante, marquée par des contre-performances, des insuffisances en Ligue des Champions, en Coupe de France. Doit-il pour autant gâcher la fierté d'avoir réalisé ce que personne d'autre avant le PSG n'avait réussi. Devenir le seul club de l'Hexagone à franchir la barre des 10 couronnements aurait certes dû s'accompagner d'une effervescence comme nul autre pareil. En fait, c'est pas vraiment le cas, quoi. Paris reste donc à jamais le premier club de l'histoire à avoir été sacré champion en demeurant en tête du classement de la première à la dernière journée. Et puis du coup, rapidement, c'est l'occasion de faire un petit point. Regardez, alors, magnifique saison de Lens. Où es-tu, Lens? Ici, voilà. Assuré de finir à la deuxième place du classement, ne pouvant pas être rejoint par Marseille. Donc du coup, c'est Ligue des Champions direct pour Lens. Marseille devra passer, je crois, par un tour préliminaire. Lille, la bataille pour la quatrième place, synonyme aussi de Coupe d'Europe, elle est serrée puisque Lille, quatrième, 66 points, Rennes, cinquième, 65 points et Monaco, sixième, 65 points. Donc ça va se jouer lors de la dernière journée. En bas de classement, relégué Angers, Ajaccio et Troyes et Nantes menacé aussi. À la sixième place, ça va se jouer manifestement avec Auxerre. 33 points pour Nantes, 35 points pour Auxerre. Ça va se jouer également lors de la dernière journée. Un petit article justement sur les autres participants du championnat. Lens aux anges, c'est énorme ce qu'a fait Lens. Nantes en sursis. Si les 100 et or vont terminer deuxième, les jaunes et verts, eux, sont toujours relégables. Le RC Lens qui a signé une victoire éclatante, c'était samedi face à Ajaccio, 3-0. Voilà. Les 100 et or assurés de terminer devant l'OM, de renouer donc avec la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2002, depuis plus de 20 ans. Hein, c'est beau. Voilà. Et pour Nantes, eh ben, c'est un petit peu chaud. Voilà, je vois qu'il y a des supporters de Nantais qui sont un peu inquiets. Il y a Mikis qui me demande si Bordeaux va remonter de Ligue 2 ou pas. Je sais pas. J'ai pas d'article sur la Ligue 2. Les amis, est-ce que vous avez des infos? Est-ce que Bordeaux retourne en Ligue 1 ou pas? Vous avez l'info? C'est oui ou c'est non? C'est mal barré, me dit John, pour Bordeaux. Troisième pour l'instant, donc non, me dit Rominou. Mal parti pour Bordeaux qui a perdu contre Annecy, me dit John Doe. Désolé. Donc c'est a priori, c'est chaud. Hein. Il y a encore un petit espoir ou quoi? Ça va jouer pour la dernière journée, me dit El Phénoméno. Ok. Horoscope, vous l'avez pas vu venir, tant mieux. Le premier qui me donne son signe astrologique, je lui lis son signe. Et c'est... Ah non ! Et non, ça aurait pu être cancer, mais il y a une faute de frappe et je suis intraitable. Je suis vraiment... Je suis comme un beau salaud. Il y a Take 69 qui était le plus rapide et qui écrit Cacner. Donc c'est cancer, mais dans le désordre, ça ne marche pas. Et par contre, félicitations à The Cold Fire 09 qui nous claque un balance, certes, sans lettre majuscule, sans grand B. Voilà. Comment ça ? Il y a MMG qui dit Lyon. John Doe. Quoi, John Doe aurait été plus rapide ? Alors, je n'ai absolument pas John Doe, mais si j'ai John Doe, oh, vous êtes, tu as raison, MMG. Pardon, pardon de Coldfire, pardon à toutes les balances. John Doe a été ultra rapide. Il m'a donné Lyon sans faute d'orthographe le premier. Quelques lignes auparavant, je ne l'avais pas vu. C'est Lyon, c'est vrai, c'est vrai. Bien joué, bien joué. Merci MMG, je ne l'avais pas vu. Oh, vous avez vraiment des regards bioniques. Lyon, Lyon que je n'ai pas lu depuis très longtemps. Comment se fait-ce ? Lyon, c'est 4 lettres. C'est hyper rapide à écrire. Hein. Je vois gagner des sagittaires, je vois gagner des taureaux, je vois gagner des béliers, je vois gagner des poissons. Lyon, vous avez 4 lettres à écrire et vous n'êtes pas souvent en tête de ce concours. Qu'est-ce qui vous arrive, les lions ? Hein. Vous êtes tel le lion de la savane, le cul posé dans les herbes, attendre que les lionnes fassent le boulot pour vous, c'est ça ? C'est ça ? Ça ne va pas, les lions. Remettez-vous en question. Il faut travailler un petit peu la dynamique, l'impact, hein, l'impulsion, hein, le tac-tac. L'explosivité. Vous pouvez pas comme ça, voilà. Donc bon, là vous avez gagné, mais vous êtes trop lent. Hein, c'est, voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est Tiklem qui est Lyon qui dit on est trop lent. Voilà. On est trop gentil, dit encore Biche Dark. On laisse les autres gagner. Scario dit mais c'est l'horoscope qui dit ça. Non, c'est moi. Voilà. Donc les Lions font 1. Allez, je vous lis les Lions. Et je zoome parce que maintenant je peux zoomer bien mieux qu'avant. Regardez, je zoome et je zoome pas trop. Pourquoi? Parce que du coup, regardez, ceux qui ont des bons yeux, qui sont gémeaux, qui sont cancers, qui sont vierges, qui sont balance, vous allez pouvoir lire votre horoscope. Voilà, je ne vais pas lire, mais vous allez pouvoir le... Oh, ma tablette. Ah, elle est revenue. Encore un coup de... Ça, c'est un coup des scorpions. Regardez, qui sont un peu en bas, invisibles, là, et qui ne peuvent pas lire leur signe et qui ont essayé de pirater mon ordinateur. Lion. Cœur, vous serez très à l'aise pour exprimer l'étendue et la profondeur de vos sentiments. Ça va aller la tablette là ? Ah bah dis donc ! Je pense que c'est parce que ma petite clé là a un peu chauffé. C'est de ma faute, je ne l'ai pas débranchée hier soir. Donc il y a du romantisme, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'expression du sentiment. Il faut exprimer ses sentiments, il faut dire à la personne que vous l'aimez. Et il faut le dire souvent, et il faut le dire avec conviction, et puis il faut penser à des petites preuves d'amour aussi, des petits pas forcément des rivières de diamants, mais des petites attentions, des petits... Ouais. Voilà, ok, je suis en conseiller love aujourd'hui. Réussite, grâce à votre conscience professionnelle, bravo, vous éviterez de faire une erreur de jugement, bravo. Je suis lion et célibataire, on fait comment, me dit Camomille ? Eh bien, tu te déclares ton amour à toi-même. Tu te dis que tu t'aimes, Tu te dis que tu es une belle personne. Tu te dis qu'il faut te chouchouter un peu. D'ailleurs, tu te chouchoutes. Tu te fais un petit achat plaisir. Tu fais attention à toi. Tu es censé travailler mardi ? Tu ne vas pas travailler mardi. Tu envoies un message à ton employeur et tu dis : je me chouchoute. C'est dans mon horoscope. Et Samuel m'a dit qu'il fallait que je prenne soin de moi. Tu ne vas pas travailler mardi. Tu ne vas pas travailler mercredi non plus d'ailleurs. Ni jeudi ni vendredi. Tu prends ta semaine. Tu casses ta tirelire. Tu vas à l'aéroport. Tu prends le premier vol. Voilà, pour une destination sympathique, européenne par exemple. Voilà. Et tu te fais plaisir. Et peut-être que tu croises l'amour. Ha 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 ! À l'aéroport. Tout à fait. Ou dans cette petite, sur cette petite terrasse d'un petit café au soleil quelque part en Europe. J'ai un entretien annuel mardi, je fais comment, me dit Mikiso. Mais tu t'en fous. Hein. À un moment, il faut prendre soin de toi. Hein. Et peut-être que quand tu rentres, tu seras viré, tout à fait. Commandant Astraeus, tout à fait, c'est vrai. Désolé. Forme bon moral. Bon moral, voilà. Sauf évidemment si vous êtes parti une semaine en vacances sans prévenir votre employeur et que vous êtes viré, du coup le moral en prend un coup, donc à un moment faites attention quand même. ce sont des conseils de l'amour, mais ce ne sont pas forcément des conseils professionnels. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc attention aussi à ce que je dis, hein, ne prenez pas tout au premier degré, parce que ce qui vaut pour l'amour ou pour la joie, la paix intérieure, PAX, le paix intérieur c'est quand on a mangé trop de cassoulet, eh bien ce qui vaut pour l'amour et la paix intérieure ne vaut pas forcément pour le travail, bien sûr. Ah, c'est bien le problème. De rien. John Doe me dit merci pour cet horoscope de qualité, pas de souci. Je suis là pour ça aussi. Le journal du dimanche. Ah, on va se régaler avec une interview du président LR de droite de la région de la région quoi d'ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'est ça je crois. Non, c'est ça, hein. Eh bien non. Eh bien, on va pas la lire, mais si ça vous intéresse, c'est dans le JDD, on peut pas tout lire quoi. Par contre, on va se pencher sur l'excellent agenda du journal du dimanche qui se projette sur l'actualité à venir de la semaine. L'actualité prévisible, hein. Le JDD n'a pas une boule de cristal, mais vous avertit sur les thèmes à venir quoi. Dixon78, merci pour le 10e mois d'abonnement. Lundi, qu'est-ce qui se passe lundi ? Donc c'est demain, les Nations Unies organisent à Paris la deuxième session de négociation pour l'adoption d'un traité international contre la pollution plastique. En replay, vous avez ça dans la revue de presse d'hier, on a lu un long dossier de Libé là-dessus qui est vachement intéressant, peut-être qu'on en reparlera demain. Dixième anniversaire, c'est une très belle date, demain, dixième anniversaire du premier mariage homosexuel célébré à Montpellier. On a déjà célébré ici, fêté les 10 ans du mariage pour tous. Mais la première fois qu'un mariage gay a été célébré en France, eh bien, c'était pile poil demain, il y a 10 ans. Ça, c'est bien. Mercredi, la commission des affaires sociales de l'Assemblée examine la proposition de loi du groupe Liot d'abrogation de la réforme des retraites. Ça, c'est super important. Hein, normalement, c'est le 8 juin, il y aura un vote à l'Assemblée sur cette proposition de loi qui propose d'abroger la réforme des retraites qui a été mise en place par le président Macron. Voilà. Bon, ce sera symbolique, évidemment, si l'Assemblée vote l'abrogation de cette réforme, puisque ça ne sera pas voté par le Sénat, donc ça ne rentrera pas en œuvre, mais ce serait un coup politique assez dur pour l'exécutif. Et du coup, l'exécutif est soupçonné de vouloir tout faire pour que cette proposition de loi ne soit pas examinée, ne soit pas soumise au vote, donc à suivre. Et ça passera notamment par ce qui va se passer mercredi à la commission. Jeudi, première réponse de Parcoursup sur les vœux des lycéens pour leurs études supérieures. Si on a des lycéens ici, eh bien, je pense très fort à vous et je croise les doigts. Et vendredi, début des festivités pour le 10e anniversaire du MUCEM à Marseille. Voilà. MUCEM, très beau musée à Marseille, ce qui me donne l'occasion de vous rappeler que hier soir, on était en stream au musée Guimet, le musée national des arts asiatiques, avec Marie Palot, avec Foki, et on s'est régalé, et c'était génial. Je suis en train de vous remettre le replay pour vous montrer notamment la qualité d'image, en fait, puisqu'on on essaie de progresser un peu à chaque fois. Voilà. Regardez. Hop, regardez. Donc là, on est au musée Guimet. Ça, c'est l'intro. Alors, voilà. Franchement, à gauche, Marie Palot. Avec de très jolis tatouages sur les bras, j'avais pas vu. Putain, là, je suis vraiment pas observateur. À droite, Foki avec très beau tatouage aussi. Et au milieu, Papy Sam, qui a le corps couvert de tatouages, mais qui ne les montre jamais. Voilà. Mais hyper fier. Là, on est dans la rotonde, dans l'entrée du musée Guimet. Hein. Et puis, on est rejoint par. Tout au long du stream, on est rejoint par des spécialistes, des responsables du musée. On s'est régalé. Voilà. Et hop, et on a découvert. Oh, regardez. La qualité, quoi. Regardez. Là, on est dans l'entrée du musée sur une des premières œuvres. Là. Voilà, à chaque fois des explications, et on se promène, et on découvre les œuvres. Regardez, pardon, mais c'est quand même, ça claque quand même, quoi. Voilà. Hein, à chaque stream, c'est le 6e dans un musée avec Joe. On essaye d'améliorer la qualité son et image. Moi, j'avoue que hier soir, je suis rentré tard, donc j'ai pas vu le résultat, mais ça va en vrai. Hein. Pépin qui faisait la régie et qui intervenait quand on se déplaçait d'un escalier à l'autre pour pas perdre les connexions, voilà, et qui vous fait des petits quiz. Pépin, t'es formidable. Voilà, là on est à l'entrée de l'exposition temporaire Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre, avec Alban François qui était le responsable de cette exposition, le commissaire, l'un des trois commissaires de l'exposition. Voilà. Donc là, on stream en plus au Moisin, en sous-sol. Donc ça a été une tannée technique, mais on a réussi. Voilà. Attends, je regarde. Waouh, waouh, regardez, ça tue quand même. Ça tue quand même. Oh là 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 là. Un petit Bouddha. Non, c'est pas un Bouddha, non. Ça, c'était un empereur, je crois. Alors, on parle d'acupuncture. Regardez. Là, c'est une... si je dis pas une bêtise, c'est la salle de méditation. Ouais. On va nous voir méditer, là. Non, bah, vous voyez pas, mais à droite, il y a une petite tête avec des cheveux blancs, c'est moi. Dans l'exposition médecine d'Asie, il y a une salle de méditation avec un Bouddha, et qui est génial, qui donne trop envie d'aller méditer, quoi. Voilà. Pépin, qu'on retrouve de temps en temps. Voilà. Et voilà. Vincent, là, qu'on a retrouvé à plusieurs reprises, qui était passionnant, qui, genre, parle couramment le sanskrit, c'était juste une dinguerie. Voilà. Là, oh, ma pièce préférée du musée Guimet, on est dans la bibliothèque historique du musée, voilà, qui est une rotonde qui est incroyable. Voilà. C'est un décor de film. C'était, waouh, c'était trop beau. J'adore cet endroit. Voilà. Avec des samouraïs. Là, un vase chinois, si ma mémoire est bonne. Là, on avait Claire, je crois, qui nous a raconté l'histoire de deux ou trois vases. Moi, j'ai eu un coup de cœur. Alors, il y a deux très beaux vases, l'un des dragons. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce vase-là, le vase aux mille fleurs, voilà, qui est juste dingue. Pardon, je m'envoie des fleurs, justement, je m'envoie mille fleurs, parce que vraiment, au niveau de l'image, là, et du son, on a vachement progressé. Là, il y a un coffre. Là, il y a une armure de samouraï de fou. Voilà. Et puis, on va finir avec l'exposition Hiroshige, donc des estampes japonaises. Oh, regardez, là, oh, waouh! Oh, bah, j'avais pas vu que Joe avait réussi à montrer cette vue au-dessus aérienne de la bibliothèque, quand je vous disais que c'était un endroit magique. Oh, cette image, elle tue, bravo Joe. Et là, on monte au dernier étage, avec une exposition d'art contemporain d'un artiste sud-coréen. C'est 3h20 de stream, je crois. Et pour finir, ouais, là, on voit la création, là. Une espèce d'éruption volcanique. Voilà. Organique. Et puis, là, ce sont des toiles aussi de cet artiste sud-coréen. Je trouvais ça très, très beau. Je sais que Marie et Foki ont beaucoup aimé ce stream. Et j'en ai très content. Et là, on est sur la terrasse. Voilà, à la cool. À la terrasse. Pour finir, à 23h pile, le stream. Là, il est 58. On est 2 minutes avant 23h. Pour le scintillement de la tour Eiffel qui était prévu à 23h et on a fait ce petit timing parfait et on devrait la voir scintiller comme c'est fixe, du coup on la voit pas scintiller mais elle scintille. Voilà, on se quitte sur la terrasse. Voilà, là vous voyez Baptiste, l'ingénieur son, là vous avez l'équipe du musée, là c'est François à droite qui a un responsable technique du musée qui a réussi à nous mettre le wifi au moins un, Foki et Marie, et c'était super. Voilà, je pense que, et on rend la fin. Normalement, c'est Marie qui reprend la fin. Voilà. Le petit au revoir. Voilà. Et Pépin qui reprend la fin. Voilà. Ah, je suis trop content. Voilà. Vous aussi, vous l'avez vu ou pas? Ça vous a plu ou pas? En gros, un stream de beau gosse, si on comprend bien. Exact, la machine, c'est ça. Voilà. Le musée qui est juste à côté du CESE. Exactement. C'est le musée qui est à côté du Conseil social, économique, social et environnemental. Voilà. C'est Place d'Iéna à Paris. C'est magnifique. Oh, merci Jean-Sébastien. Merci. Tu penses faire quelques beaux musées des régions, me dit Benoît. On a un truc en juin là. On aura une 7e exposition Étienne normalement en juin. Bon, c'est beaucoup de travail. Hein. J'essaie de ne pas en faire trop parce que c'est beaucoup de travail, de préparation. Et on est content quand on le fait parce que waouh. Donc oui, en juin normalement. Ouais. Ça, au niveau technique, ça vous a plu ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs à améliorer? N'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vois que l'exercice vous plaît. C'est moi ou tu es tout petit? Pas du tout, Olmolisme. Je mesure 2m24. D'ailleurs, je suis drafté en NBA à la place numéro 1. Ça va s'officialiser dans pas longtemps. Voilà. Et mon vrai nom, c'est Victor Wembanyama. Donc, je ne suis pas petit du tout. Je suis très, très grand. D'ailleurs, bientôt, je vais arrêter de streamer puisque je suis attendu en NBA. Donc, je ne peux pas tout faire. Voilà. Au début, le caméraman bougeait trop. Ok, Joe va être content. Ok. Est-ce qu'on peut améliorer des trucs?
Franchement, très bonne qualité. Merci, South Massalia. Vivement Papy Sam sur le gaming. J'ai hâte. C'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. Et plus vite que vous ne pensez. La rediffusion est gratuite. Merci, Sam. Pas de soucis. C'est sur ma chaîne Twitch. C'est aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Le son grésillait fort fort au début. Je suis pas surpris. Le son, ça se règle. Effectivement. Et justement, vos retours de début de stream sont toujours très importants. Et du coup, Baptiste, l'ingénieur son, puisqu'on est accompagné par un ingé son qui gère avec sa mixette portable jusqu'à 5 HF en même temps. Donc à un moment, on était 5 quoi, quand même. Quoi. Donc là, il nous faut un professionnel, bien sûr. Certains nous proposent un drone. Je pense que le drone dans un musée auprès d'œuvres, des vases ou autres inestimables, je pense que ce n'est pas l'idée du siècle, si je puis me permettre. Donc le drone, c'est non. Ok, ça vous a plu. Top. Eh ben, je suis content. Eh ben, je suis bien content. Et on vient à la revue de presse. Alors, ah, j'ai trouvé ça chouette aussi, regardez. Ça, c'est un article dans le journal du dimanche du jour que je vous conseille si vous voulez acheter le JDD aujourd'hui. Handicap, il préfère en rire. C'est une très belle double page sur des humoristes handicapés en situation de handicap et qui sont en train de percer, en fait. Et je trouve que l'article est super cool et peut-être qu'on va aller pouvoir se régaler d'un ou deux sketchs d'ailleurs. Dixon78, merci pour le 10e mois d'abonnement, merci du soutien. Let's go. Une nouvelle génération d'humoristes handicapés fait donc le pari de la scène, écrit le JDD pour eux-mêmes d'abord et pour contribuer à changer le regard des autres. Ça, c'est cool. Acide voire corrosif, Guillaume Batz, certains m'en parlaient déjà tout à l'heure. Lors du sommaire, Lilia Benchaban, je crois que c'est la jeune femme là, et Quentin Ratieuville ne veulent pas pour autant se laisser enfermer dans une case, à savoir la case de l'humoriste handicapé. Quoi. Voilà, c'est vachement intéressant. On me dit que Guillaume Batz est produit par Jérémy Ferrari, LG Gronto, je crois que tu as raison. Je suis content parce que je sais pas, cette appli s'est améliorée, maintenant on peut vraiment zoomer exactement comme je veux. Avant, quand on zoomait comme ça, en fait, on partait dans les... sur les côtés, bon ben il y a un truc qui s'est amélioré. Je dis ou merci à OBS ou merci à Elgato là pour l'appli, il y a un truc qui s'est arrangé quoi. Un jeune homme haut comme trois pommes entre en scène en gratifiant le public du Zénith de Paris d'un bras d'honneur, histoire d'annoncer la couleur de son humour noir, j'adore. Je tiens à préciser que je peux rire de moi, c'est l'auto-dérision, dit cet humoriste. Par contre, si vous rigolez de moi, dit-il au public, ça s'appelle de la discrimination envers une personne handicapée, c'est passible de 3 ans de prison, de 45 000 euros d'amende, je prends évidemment tous les moyens de paiement. J'adore. Lui, c'est Quentin Ratieuville, 20 ans, 21 opérations depuis sa naissance, une tête à jouer les gamins de 8 ans dans une pub pour Action contre la faim. C'est aussi lui qui le dit, atteint de deux maladies génétiques, les syndromes de Marfan et de Loeys-Dietz. Il assure ce soir d'avril la première partie de Walidia, son ami très en vue, autre humoriste, qui lui a mis le pied à l'étrier il y a 5 ans. Voilà. Tiens, vous savez quoi, on va au fur et à mesure qu'on évoque des noms d'humoristes comme ça, on va se faire un petit sketch. Donc là, c'est Quentin Ratieuville. Certains connaissent dans le chat. Quelqu'un me disait Quentin, formidable à l'instant. Quentin Ratieuville. Bon, du coup, moi, j'avoue, je ne connais pas tous ces humoristes. J'ai envie de découvrir avec vous. Alors, Quentin. Est-ce qu'on pourrait trouver un petit sketch? Ah, j'essaie de vous trouver un truc bien. Ta-ta-ta-ta-ta. Là, c'était une vue. C'est un truc il y a 3 ans dans RTL Humour. 3 ans, c'est peut-être un petit peu ancien. Je vois beaucoup de portraits, beaucoup de reportages. J'ai vu un truc avec justement Jérémy Ferrari un peu plus haut. C'est peut-être ça qu'on peut regarder. Ouais. Ah bah c'est un duo entre Quentin et Jérémy Ferrari. Je me demande s'il n'y a pas Guillaume Batz aussi. Bon, attendez, ça a l'air sympa ça.
C'est la 8e édition du Smile.
Et tu sais, toujours particulier, ouais.
Oh, ça a l'air cool. Ok. Ok. On est On est dans les duos impossibles de Jérémy Ferrari, 8e édition justement.
Excusez-moi, monsieur, dame. Je te dérange pas, ça va ?
Non.
Ça va. Alors, en fait, je voulais te dire quelque chose, Annie. C'est vrai, ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est la 8e édition de Smile.
Et tu sais toujours particulier, ouais.
Et je me suis rendu compte pendant ces 10 ans qu'on avait fait des vannes exclusivement, en tout cas principalement, sur mon physique, sur mon handicap. Alors bon, c'était génial, c'était très drôle. Je pense en plus sincèrement qu'on a fait bouger les mentalités, tu vois. Puis sincèrement, je pense qu'on a fait toutes les vannes possibles sur le handicap.
Non, ça, je pense qu'il en reste, mais ok, vas-y.
Non, bah, bon, voilà. Et je pense que pour l'évolution de ma carrière, il est peut-être bien, peut-être, hein, c'est, ouais, c'est une supposition, que je m'éloigne un peu de toi. Sans toucher à notre amitié, hein, que je fasse peut-être d'autres choses à côté, peut-être avec d'autres humoristes, que je fasse mon petit bonhomme de chemin tout seul, comme un comédien classique, tu vois.
Comme un comédien classique.
Ouais, voilà, classique.
T'as raison.
Sérieux ?
Ouais, ouais, non, t'as raison.
Tu le prends pas mal ?
Non, je prends pas mal. Tu sais, en fait, professionnellement, c'est vrai qu'après 10 ans, je crois qu'effectivement, t'as besoin de faire des trucs un peu de ton côté, que les gens te voient avec d'autres gens, d'autres humoristes, dans d'autres univers. Donc, t'as ma bénédiction, t'as mes encouragements.
Je m'attendais un peu à une réaction un peu violente, mais évidemment, merci. Merci, mon pote.
Rien, mon pote.
Et voilà. Je t'aime pas. Merci, mon pote.
Allez, il est temps d'accueillir notre prochain invité, mesdames et messieurs, Quentin Ratiouville. Ah, le bleu, mon champion.
C'est moi ton champion.
Quentin Ratiouville qu'on évoquait à l'instant dans l'article du JDD. Hein.
Qui c'est mon champion?
C'est moi ton champion.
Qui c'est mon champion?
C'est moi ton champion.
Allez, allez, fais rire.
Bonsoir, alors je tiens à m'excuser pour l'état dans lequel j'arrive, mais j'ai été livré par Chronopost.
Et bientôt, ce sera par Picard.
C'est bon.
Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Jérémy?
Je travaille, Guillaume.
Et qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, Guillaume?
Oui.
C'est l'avenir.
Et c'est qui ça?
Ça, c'est personne, c'est un comédien classique.
Donc j'en conclus, Jérémy, que si... Pardon, Quentin, si ça est là, c'est que j'avais déjà prévu de me remplacer.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Guillaume? Là, tu partais de toi-même, c'était super, il n'y avait aucun problème, et tu reviens, et gna 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 gna. Alors oui, j'avais prévu de te remplacer, Guillaume, parce que je trouve, depuis un certain temps déjà, que ton handicap... est vieillot.
Vieillot.
Oui, vieillot. Mais tu vois bien, regarde, il y a 10 ans, quand t'arrivais sur scène, les gens, ils avaient peur de toi, ils comprenaient rien, ça générait du débat, tu vois, du dégoût, de la haine, beaucoup de haine. Les gens, ils savaient pas, est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on le brûle, tu vois. Et là, tu soulevais les foules et les cœurs. Mais regarde maintenant, tu vois, tu arrives, les gens t'applaudissent, tu as entendu l'ovation tout à l'heure, c'est terminé, tu ne fais même plus peur aux enfants, Guillaume. Alors que là, regarde. Regarde ce que la vie m'a offert. Regarde-le, il a un œil en Bretagne, l'autre en Alsace. Il y a des bosses partout, en bas, derrière, en dessous. Il n'y a plus rien qui marche, le cœur, les poumons, la rate, tout est niqué.
Eh, hey, j'ai quand même une espérance de vie de 70 ans.
Mais tais-toi, malheureux. Oh, il me fait penser à toi. Tu lui veux niquer sa carrière avant qu'elle ne démarre. Tu te souviens, toi? Tu voulais dire aux journalistes que ta maladie était récessive. Je dis, mais tais-toi, malheureux. Dis-leur que ça empire, pas que ça s'améliore. Quentin, le maximum que tu dois dire, c'est « les médecins ne se prononcent pas ». Parce que ça, ça génère le doute. Et tu sais ce que ça génère, le doute?
Non.
Des entrées. Parce que si tu dis que tu vas bien, les gens disent « bon, bah là, on ira plus tard ». Alors si tu dis que tu vas mourir, les gens ils se disent « vite, 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 vite ». Hein? Comprennent rien, là, comme, hein, mes petites créatures.
On va en regarder d'autres, puisque l'article est d'autres comédiens, d'autres humoristes. Hop, je reviens sur l'article du JDD. Mais si vous voulez voir ce sketch, il est un petit peu plus long. On en a vu à peu près les deux tiers. On vient de voir Quentin Ratcheville à l'instant, hein, qui est entré dans un deuxième temps. Autre ambiance évoquée par l'article du journal du dimanche, pas moins chaleureuse, une semaine plus tard que le sketch évoqué par l'article, dans la petite salle du Théâtre du Marais, dans le 3e à Paris, où Lilia Benchaban présente son One Woman Show. Attention, handicapée méchante, dit-elle. J'imagine que c'est la première fois qu'elle s'adresse au public que vous avez une humoriste handicapée en face de vous, sauf si vous êtes déjà allé voir Anne Romanoff, dit-elle en préambule. Ça, malvoyante et albinos, je pense que c'est la jeune femme qu'on voit ici, là, en photo, avec cette paire de lunettes au bout des doigts. La jeune femme de 26 ans raconte son histoire peu banale avec un débit mitraillette et un sens de l'autodérision, parce que vous avez compris que c'est un des ressorts de cet humour. Axe acéré. Léonard de Vinci ou un peintre en bâtiment, dit-elle, je ne fais pas la différence. Vous comprenez pourquoi les musées sont gratuits pour les aveugles. Ou encore, je suis une handicapée light, bio, sans gluten, malvoyante, entre autres. Je suis aussi mal aimée, maladroite, mal dans ma peau, un peu comme vous. Ça, j'aime bien. Lilia Benchaban et Quentin Ratcheville ne sont pas des cas isolés. Là où Jamel Debbouze n'a jamais évoqué sur scène sa main droite perdue lors d'un accident à l'adolescence, d'autres artistes font le pari de rire d'eux-mêmes pour dérider les zygomatiques et contribuer à changer le regard sur le handicap. Alors, certains étaient un peu mal à l'aise par rapport au sketch de tout à l'heure, et Julien a lu d'ailleurs ce mal à l'aise dans certains propos dans le chat, et écrit « Je suis désolé, dit Julien, perso ayant un frère handicapé, j'ai beaucoup ri, car ça me rappelle pas mal de discussions drôles avec lui, avec mon frère. Il n'y a que les gens qui n'ont jamais connu ça qui vont être mal à l'aise. » Moi, le handicap physique, c'est un sujet que je ne connaissais pas très très bien jusqu'à il y a 6-7 ans, où j'ai eu la chance de devenir le parrain d'une association qui s'appelle Pompiers Raid Aventure, qui sont des pompiers qui emmènent avec eux dans des petites chaises à porteurs qu'on appelle les joëlettes, des enfants ou des adultes d'ailleurs, en situation de handicap physique dans leur course à pied un petit peu à travers la planète. Et du coup, un peu moins maintenant parce que là je manque de temps, mais ils sont toujours très très près de mon cœur. J'ai fait beaucoup de courses à pied avec eux, avec notamment des enfants en situation de handicap physique, et j'ai fait le constat de ça, Julien, effectivement, qu'on pouvait en rire avec eux, eux-mêmes étant souvent les premiers à en rire, et que ça pouvait créer des moments très très forts humainement, quoi. Donc parmi ces humoristes qui veulent changer le regard sur eux et sur le handicap d'une façon générale, il y a le bègue Valentin Reiner, il y a le malvoyant Nasser l'handicapable, ou encore Grégory Bugnot, tétraplégique et recordman du monde de dérapage en fauteuil roulant en 2009. La concurrence devient féroce, je vais devoir me couper une jambe et un bras, ironise par exemple Guillaume Batz. On évoquait Lilia Benchaban, je vais essayer de trouver un sketch. Donc c'est commencé, Lilia Benchaban, voilà. Vous tapez Lilia sur YouTube, ça vient très très vite. Là j'ai un truc, Lilia Benchaban, presque aveugle, albinos, mécanon. Ouais, je crois que c'est un sketch. C'est un Montreux. Ok, on y va ?
Waouh, bonsoir Lynn ! Vous allez bien ? Waouh ! Quel public exceptionnel ! Je suis très très contente d'être là. Moi je me présente, je m'appelle Lilia, enchantée. Et moi j'ai une petite particularité, je suis malvoyante. D'ailleurs vous voulez bien s'il vous plaît faire un petit peu de bruit, juste pour être sûr que je sois au bon endroit ? Ok. Merci. Ça me rassure, parce que la dernière fois j'ai joué dans les loges. C'était pas ouf. Bah, en tant que malvoyante, si vous voulez, ma vie c'est un petit peu un blind test. Il faut savoir que moi je frôle la mort quasiment à chaque fois que je traverse la route. En général, d'ailleurs, je sais que la mort est imminente quand j'entends casse-toi du milieu, connasse. Super accueillant les cyclistes lillois. On a les cyclistes ou pas ce soir ? De toute façon, je peux rien faire, je vois pas. En fait, si vous voulez, je suis pas aveugle, mais je vois pas non plus. Ce qui, maintenant que je le dis à haute voix, est encore plus con. Et je me dis, tu sais, c'est vraiment dommage, parce que pour le coup, je distingue les formes et les couleurs. Par exemple, quand je vais au musée, Je vois le cadre doré. Mais je vois pas trop ce qu'il y a dedans, tu vois. Du coup, ma Joconde, c'est pas votre Joconde. Ouais. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que plus j'en discute avec les gens, plus je me rends compte que la mienne, elle est vraiment éclatée. Ouais. Alors, pour vous donner un autre exemple, il y a pas très longtemps, je rentrais chez moi et il faisait jour ou nuit. Bah, je sais pas, parce que je vois pas. Et tu sais, en fait, au loin, j'aperçois une silhouette un peu imposante, 1m80 et tout. Mais je décide de continuer d'avancer parce que je suis une femme hyper courageuse. Alors, est-ce qu'on est courageux ce soir à Lille ou pas? Apprenez à faire demi-tour. Ce que moi, j'ai pas fait, tu vois. Et en fait, plus j'avance et plus je réalise que quand tu mesures 1m20 et que tu vois rien, le courage, ça suffit pas. Tu vois. Alors du coup, pour me rassurer, je me suis mise à penser à la théorie du fight or flee. Ok, on est sur un niveau d'anglais de merde ce soir. Ok, fight, ça veut dire combattre, et flee, ça veut dire fuir. Tout le monde me suit? Ok, alors en fait, la théorie, elle dit que quand ton corps, il sent qu'il est dans un environnement dangereux, instinctivement, il prend une décision pour toi. Et il choisit soit de se battre, soit de fuir. Et mon instinct, il s'est chauffé tout seul. Et du coup, moi, j'ai regardé droit devant moi et j'ai dit « Bouge ou je te défonce !» Mais il n'a pas bougé. Forcément, c'était un buisson. Tu vois ou pas? Je vous laisse imaginer les balades en forêt. Ouais. Et c'est marrant parce que après les gens osent dire « Mais attends, Lilia, c'est pas un handicap que t'as. C'est juste un problème de vue. Eh ben viens, je te crève les yeux et on verra. » Alors, rassurez-vous, Lille, rassurez-vous, je n'ai pas que ça comme problème. Parce que quand t'es handicapé, c'est cadeau, ça vient en package. Alors, je suis aussi albinos. C'est marrant, j'ai eu la même réaction que vous quand je l'ai su. Alors, un albinos, pour ceux qui savent ce que c'est un truc blanc avec des yeux rouges. Voilà. Et il n'y a pas énormément d'avantages à être albinos. Mais il y en a un à vivre en France quand tu l'es. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les petits bébés albis qui naissent en Afrique, ben, ils n'ont pas la même vie que nous, tu vois. Eux, ils sont plutôt chassés, tués, démembrés et revendus en pièces détachées. Un petit peu comme une Clio, finalement. C'est cruel, hein. Mais moi, j'aime bien cette vanne parce qu'en fait, comme je vous vois pas, elle me permet un petit peu de savoir quel type de public j'ai en face de moi, tu vois. Et là, comme je viens de vous dire que des bébés se faisaient buter, vous avez pas l'air choqués? Je me dis, bon, ce soir, à Lille, on est sur un bon public de connards, tu vois. Mais en même temps, on a le public qu'on mérite. En fait, c'est un albinos, c'est traité comme ça. C'est parce que dans les traditions africaines, un albinos, ça porte bonheur. Et du coup, c'est tellement rare que ça se vend hyper cher. Les gars, un albinos, ça se vend jusqu'à 100 000 euros. Appréciez ce que vous avez devant vous. Alors, il paraît que ma mère, quand elle a accouché, elle a fait ce qu'on appelle un rejet. Mes parents, ils sont assez mat de peau, cheveux bruns. Et du coup, quand l'infirmière a dit à ma mère, le truc blanc là-bas, c'est votre bébé. Ma mère, elle a dit, ah, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. Heureusement, mon papa, lui, il n'a pas fait de rejet. Il a fait une enquête. Et finalement, ils m'ont gardé. Mais moi, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, ils ont hésité? Et s'ils ont hésité, qu'est-ce qui les a fait changer d'avis, tu vois? Est-ce qu'à un moment, il y en a un qui s'est dit, remarque le blanc, ça va avec tout? Non, mais en vrai, je peux pas leur en vouloir à mes parents d'avoir eu ce genre de réaction.
J'aime. Merci,
l'article. Le deuxième enfant
de JDD, parce qu'en fait, moi, je découvre là, plein d'humoristes que je connaissais pas. J'ai bien aimé la comparaison de la Clio, notamment, tout à l'heure. J'ai plein de noms, là, on va pas tous les regarder. Voilà, à l'instant, j'évoquais Valentin Renner, Nasser l'handicapable, Geoffroy Bugnot. Et on revient à Guillaume Batz, qui se félicite qu'il y ait de plus en plus d'humoristes comme ça en situation de handicap. Il dit c'est une très bonne chose, ça prouve qu'il y a de la place pour tout le monde. À 36 ans, il est, lui, Guillaume Batz, le plus connu et le premier à avoir trempé sa plume dans l'acide pour dédramatiser son affection héréditaire qui est l'ostéogenèse imparfaite, qu'on connaît plus sous le nom de maladie. Qu'est-ce que c'est que cet énorme raid? Oh la vache, Ninion! Oh la vache, Nini! C'est notre deuxième raid venant du Japon. Il y a l'armée des viewers de Ninion qui vient d'arriver. Oh, ça me fait super plaisir. On est en train de parler d'un super sujet en plus des humoristes de plus en plus nombreux en situation de handicap. C'est dans le journal du dimanche. Et je suis hyper touché, Nini, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour cet énorme raid. Je ne sais pas quelle heure il est au Japon. De quoi vous avez parlé ce matin sur le stream de Nini. Les modos, n'hésitez pas à mettre la chaîne de Nini, de Dinion, dans le chat pour que ceux qui ne connaissent pas aillent voir. Vous avez parlé de quoi ce matin? Voilà. Vous avez parlé de quoi? Est-ce que vous avez parlé de gastronomie? Est-ce que vous avez parlé de quoi? Racontez-moi un petit peu. Je la vois souvent en stream, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée. Voilà. La chaîne de Ninion, elle est dans le chat. Allez voir, vraiment, c'est super. Voilà. Du vol au Japon? Du vol. Elle jouait à Age of Empire. D'accord, ok. Du vol comme ça ou du vol dans la poche? Ok, donc ça, du gaming ce matin. Ok. Merci. Allez voir cette chaîne en tout cas. Et donc, on était sur ce très beau papier, regardez, du journal du dimanche sur ces humoristes en situation de handicap. On a écouté quelques sketchs déjà. Voilà. Et on évoquait les propos notamment de. Qui parle de Guillaume Batz, je crois. Qui dit. Comment il en arrivait à vouloir faire rire de vol de légumes. Ok, d'accord. De la sécurité au Japon. Comment il en arrivait à vouloir faire rire en fait les autres de son handicap. Jusqu'alors, je n'avais pas encore réussi à gérer mon handicap ni à l'expliquer aux autres. Donc, mes camarades ne savaient pas comment l'aborder à l'école, par exemple. Faire des blagues a permis de rendre le sujet plus léger. Je ne faisais plus rire les gens de moi. Je faisais rire les gens avec moi. Hein, ça m'a donné de l'assurance, dit un autre. Et comme je le dis dans mon premier spectacle, dit encore un autre humoriste, j'en avais marre qu'on rit de moi gratuitement et maintenant je fais payer. S'ils refusent de jouer les porte-parole, par ailleurs, des handicapés, tous contribuent à leur manière à changer le regard trop souvent cantonné à la condescendance ou à la pitié un petit peu embarrassée. Ou à la moquerie gratuite, donc changer le regard sur le handicap. Je n'ai pas l'ambition d'être une mascotte, la Dua Lipa des gogoles ou la Beyoncé des handicapés, dit par exemple Lilia, Ben Chaban qu'on vient d'écouter un instant au début de son show. Elle se dit néanmoins touchée par les nombreux témoignages de personnes en situation de handicap ou non d'ailleurs, séduite par son humour piquant et sa résilience, on vient de l'écouter à l'instant. Merci encore Nino, ça m'a vachement touché ce raid, et Lazarus, merci pour le soutien, le deuxième mois d'abonnement. Rire de son handicap, et on l'a vu d'ailleurs dans les commentaires dans le chat, je vous ai vu, hein, exutoire écrit à l'instant, il y a du boulot si on lit le chat. Oui, rire de son handicap relève pourtant de l'exercice d'équilibriste, hein. J'ai vu que certains effectivement étaient un peu bousculés par ce qu'on a entendu et vu. La frontière est mince entre l'auto-dérision et l'auto-dénigrement, explique Angelina Bruno qui a assuré les premières parties de Fabrice Eboué en 2022 par exemple. Tous affichent en tout cas une même ambition, hop, c'est ici, ne pas se laisser enfermer dans la case de l'humoriste handicapé. Dans mon premier spectacle, c'était le fil conducteur, dit Guillaume Batz par exemple, j'étais obligé d'en parler. Dans le nouveau spectacle, je le fais toujours parler de mon handicap, mais à la marge. Parler de mon handicap pendant tout un spectacle n'est pas mon but, dit encore Lilia Benchaban. J'aime rire de tout, j'essaie de créer des ponts avec le public. Conclusion de l'article ici en bas à droite, le cinéma par ailleurs fait rêver tous ces humoristes handicapés, même s'il demeure hélas un plafond de verre indépassable. C'est sûr que nous on ne sera jamais bankable, dit par exemple Ada Abdelli, à la limite on est bankable. Il y a un humoriste qu'on a beaucoup évoqué qui est un peu comment on dit, celui qui fait avant les autres, un précurseur, pardon, merci beaucoup, c'est Batz, Guillaume Batz. On va essayer de se faire un dernier sketch, voilà, de Guillaume Batz, parce que moi j'avoue que je découvre un peu cet univers ce matin, et je trouve l'article du JDD, du journal du dimanche, qui est paru en kiosque aujourd'hui. Guillaume, ça va pas mal ça, Guillaume Batz, je ferai un bon père, déjà plus d'un million de vues sur YouTube. Let's go, Guillaume Batz.
Bonsoir, Montreux, est-ce que ça va? Ah là là. Je suis très, très, très heureux de revenir à Montreux pour le cinéma des 30 ans. La dernière fois que je suis venu, c'était pour les 25 ans. S'ils comptent m'inviter tous les 5 ans, c'est chaud quand même, hein, parce que avec moi, t'es pas sûr. Hein, non, mais c'est vrai, hein. Moi, j'ai plein de potes qui me disent, tu sais, Guillaume, avec toi... On part plus sur un viager que sur un prêt sur 30 ans, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui, je suis très heureux. Et ça se trouve qu'au final, tu vas voir, au festival des 60 ans, je serai encore là, Je vais tous les enterrer, ces bâtards, moi. Tu vois. Bien. Maintenant que la glace est rompue, continuons dans un esprit de convivialité et de joie. Donc je me présente, je m'appelle Thomas, ça vous savez déjà. Mais ce que vous savez peut-être pas, messieurs dames, c'est que je suis né avec la maladie des ovaires, mais surtout que je suis né avec 27 fractures. Impressionnant, hein? Ce qui fait de moi, mesdames, messieurs, le champion national français de fractures post-natales.
Vache.
Je les ai niqués. Ça me fait rire, moi, tous ces gens qui me reconnaissent dans la rue, parce que maintenant, je suis un peu médiatisé aujourd'hui, qui me disent « Excusez-moi, est-ce que vous êtes Guillaume Batz ?» À votre avis, j'ai même temps la probabilité que vous croisiez mon sosie, elle est quand même assez mince, hein. Donc, soit je suis Guillaume Batz, soit j'ai emmené ma voiture à la caisse et j'ai oublié de sortir, toi, je... Bon,
c'est bon.
Et ce métier, en tout cas, me fait vivre des émotions incroyables. Je vais dans des endroits incroyables. Il n'y a pas longtemps, j'étais joué à Tahiti. Ce soir, je suis à Montreux. J'étais joué à Rouen. Ouais. Alors oui, oui, j'étais déjà comme ça avant d'y aller. Alors, c'est drôle. Non, mais voilà. Et du coup, bon, il manque juste une chose, c'est celle qui fera vivre mon cœur. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je suis persuadé que grâce à la célébrité et à l'argent, je vais enfin trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. Voilà. Ah. Pour pouvoir enfin fonder une famille et avoir des enfants. J'en veux vraiment des enfants, je vous jure, hein. Même si ça doit être avec une femme non consentante, j'en aurai. Même si elle se barre pour les mettre bas derrière un tas de bois, j'en aurai, ouais.
Oh putain.
Et vous savez pourquoi je veux tellement découvrir la joie d'être papa ? Tellement avoir la responsabilité d'un enfant, pour une raison. Me faire souffrir. Les seules personnes qui ont le droit de se moquer d'un handicapé sans qu'on ne leur dise rien, ce sont les enfants. Maman, maman, pourquoi il est bizarre le monsieur ? Hé hey, monsieur, elle est où Blanche-Neige ? Ah putain, fracture, ah. Putain. Elle est dans ton cul, petit connard. Mais enfin, monsieur, vous avez pété un câble ou quoi? Il a 8 ans. Et alors, connasse? C'est parce qu'il a 8 ans qu'il a le droit d'être con, ton gamin? Il a le droit d'insulter un handicapé, mais dès qu'il dessine sur les murs de la maison, il se prend une claque dans la gueule. Il est où, sans tes valeurs, là, hein? Toi, gamin, t'as de la chance que ta mère, elle est là et que j'ai la main pétée, hein? Parce que je peux te garantir que sinon... Ah, je pense que je serai un bon père, moi. Ouais. Ouais. J'ai tellement de choses à leur donner, à mes enfants. Bah déjà, cette maladie qui est génétique.
Oh putain. Oh putain.
Quoi? C'est un patrimoine comme un autre, hein, je suis désolé. Alors attention, parce qu'on dit maladie génétique, oui, mais pas forcément héréditaire. Mais moi, je ferai des enfants jusqu'à temps qu'il y en ait un qui l'ait.
Oh putain.
Bien sûr. C'est vrai qu'il me ressemble aussi, cet enfant.
Oh putain.
Il n'y a pas de raison que je sois le seul à dérouiller, je suis désolé. En plus, on dit qu'un enfant prend physiquement de ses deux parents. Ok, pas de souci. C'est prouvé scientifiquement, je suis d'accord.
Ouais.
Mais dans ce cas-là, j'ai quand même intérêt à me taper un putain de top modèle pour compenser, tu vois. Parce que si je me tape un boudin, t'imagines ma fille? Cette tête, des longs cheveux blonds et une petite robe rose. Vous avez l'image, là? Ouais. Mais elle est pas prête de se faire attraper par un pédophile, celle-là, hein? Je peux la laisser le matin au parc à 8h, à 17h, elle est encore là. Hein? Papa, t'es revenu. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Hein, quand on a pas de bol, on a pas de bol. Hein? Moi, ce qui m'interpelle, c'est que les gens, souvent, qui font des enfants, le font pour laisser une trace. Moi, c'est juste par curiosité.
Oh.
Non, oui, attends. J'ai pas besoin d'un enfant pour me sentir immortel, tu vois. En plus, j'ai pas peur de la mort. Non, c'est vrai. La mort, elle est assise à côté de moi depuis que j'ai 5 ans, tu vois. Nique ta mère, la mort. Après, je vais pas vous mentir. C'est vrai que mon espérance de vie n'est pas... Allez, c'est prévu pour mardi, tu vois, donc c'est... Ah, c'est chaud. Et en plus, j'ai pas peur de la mort pour une raison très précise. C'est parce que je crois en la réincarnation. Du coup, j'ai hâte. Ah oui. Ah bah oui. Je peux pas être... A priori, je peux pas être plus déçu, hein.
C'est génial.
J'ai quand même prouvé, j'étais pas très difficile, tu vois. En plus, je pense qu'on pourrait être incarné en tout, même en animal, pourquoi pas. Par contre, je pense pas que ce soit toi qui puisses choisir l'animal. Sinon, ça serait le bordel. Ah, attends, personne choisirait d'être incarné en huître. C'est vrai. Et puis, c'est pareil pour les plantes. Tu vas toujours choisir un beau chêne dans une belle forêt de Provence au sud de la France plutôt qu'un troène devant la gare de Montreux, tu vois. Et bah, tu vois, si quand même j'avais cette possibilité de choisir l'animal, j'aimerais bien être réincarné en aigle royal. C'est classe, tu vois. J'ai déjà les ailes en plus, tu vois. Ouh. Mais tu vas voir qu'avec la chance que j'ai, ils vont me dire qu'il n'y en a plus. Et je vais me retrouver pigeon devant la gare de Montreux, quoi. Et si c'est ça, j'espère une chose. C'est que mon handicap ne me suive pas dans ma réincarnation. Hein. Bah, attends, vous imaginez, vous, la gueule du pigeon ? Hein ?
Ah, oh, putain.
C'est un peu là. The Walking Dead du pigeon, tu vois. D'ailleurs, il y a une légende sur la réincarnation, vous la connaissez ou pas? Oui, non. Vous êtes mort? Non, ça. Entre le nez et la bouche, on a tous un creux, là. Ouais? Vous êtes fait comme moi. À quelques détails près, ok. Eh bien, la légende raconte que ça serait un ange qui descendrait au-dessus de chaque berceau de nouveau-né,
ouais,
qui poserait son doigt sur la bouche des enfants pour leur faire chut, d'où la petite trace, afin que jamais ils ne puissent se souvenir et parler de leurs anciennes vies. C'est beau, hein?
Mmh.
Ouais.
C'est vrai, ça.
Pour moi aussi, cet ange, il est passé. Il a posé son doigt sur ma bouche, il a fait chut. Et il m'a pété la gueule.
Waouh. Alors, la vache, je connaissais pas. Et merci le JDD. Je vois que beaucoup connaissaient. Guillaume Batt, c'est ça, hein? Voilà. Je connaissais pas. Et ouais, c'est génial. Je vois que beaucoup connaissaient. Incroyable, ouais, il est bon, hein, il est bon. Hein. On me dit que c'est donc Ferrari, Jérémy, son producteur, avec qui j'ai fait un Fort Boyard il y a quelques années déjà, qui écrit pour lui, et c'est vrai que on retrouve quand même la patte de l'écriture de Jérémy Ferrari. Quoi. CDQP, merci beaucoup pour les beats. Red FS, je kiffe ton pseudo, tu le sais, merci pour le deuxième mois d'abonnement, et un grand merci encore à Nignon. Vous êtes plusieurs à me parler de Valentin aussi, je crois. Attendez, je remonte un peu dans le chat. Quentin, vous me parlez d'autres humoristes, on va pas tous les faire. Je vais arrêter de piller les créations d'autres sur YouTube pour sourire avec eux, mais c'est assez magnifique, quoi. Je vous invite à lire, pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas cet univers, des humoristes de plus en plus nombreux en France et avec de plus en plus de succès en situation de handicap. Ah oui, c'est Valentin Renner, c'est ça, l'article en parle, effectivement. Mais voilà, c'est pages 38 et 39 dans le JDD. Moi, je lis les journaux du début à la fin, bien sûr, pour une raison précise, c'est que ce ne sont pas toujours les premiers articles qui m'intéressent, qui sont souvent sur des actualités qu'on a déjà évoquées ou qu'on va évoquer. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, il y a des grosses actus comme le sommet international pour réduire la pollution plastique, on en a parlé hier, je pense qu'on va en reparler demain, l'élection présidentielle en Turquie, deuxième tour, ça se passe en ce moment, on en parlera sûrement demain matin. Et je suis allé chercher un petit peu plus loin des papiers, comme ici, page 38 et 39, dans le JDD, et je dis merci au journal. Ah ! Ça, par contre, c'est aujourd'hui, parce que demain sera trop tard. C'est la fin du Festival de Cannes, c'est la Palme d'Or à Cannes, c'est la polémique qui a suivi le discours de réalisatrice qui a eu la Palme d'Or. On la voit ici, c'est Justine Triet, elle est à droite ici, là, voilà. Et ça, c'est aujourd'hui forcément qu'il faut l'évoquer, et pas demain. Une palme et une polémique, titre le journal du dimanche, avec Justine Triet, donc la réalisatrice française, Cocorico, qui a reçu la récompense suprême et qui a dénoncé dans son discours la politique du gouvernement, et ça a fait beaucoup réagir sur ce temple du débat apaisé des passionnés entre gens de bonne volonté qu'est Twitter. Je plaisante, bien sûr. C'est de pire en pire. Donc la réalisatrice française Justine Treillet a été couronnée pour Anatomie d'une chute. On ira voir la bande-annonce. Et a profité de cette tribune, en fait. Effectivement, c'est la troisième femme seulement à avoir reçu la Palme d'Or. Vous avez raison, on va en parler. Et profiter de cette tribune pour lancer une attaque contre le gouvernement sur sa politique, notamment sur sa politique de la culture et de sa politique de la réforme des retraites. Elle a notamment estimé, on va aller voir la tribune, je pense qu'on va trouver ça sur Internet assez facilement, que ce schéma de pouvoir dominateur cherchait à casser l'exception culturelle française, donc là c'est la politique culturelle du gouvernement qui n'irait pas. Et puis elle s'en est aussi prise à l'attitude du gouvernement face à la contestation du report à 64 ans de l'âge de la retraite, des propos qui ont recueilli des applaudissements de la salle et provoqué une vive réaction de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui s'est dite estomaquée par son discours si injuste. Je crois qu'elle a fait un tweet, hein. On va aller voir ça. L'incident a marqué une soirée où les femmes ont été mises à l'honneur, et ça, on va y revenir. D'abord sur la Palme d'Or, qui en fait est décernée pour la troisième fois seulement à une femme et pour la deuxième fois seulement à une Française, donc ça c'est important. Je vous propose d'aller voir d'abord les mots de la polémique, voilà, les mots de cette tribune qu'on va les trouver, bah, je pense, du coup sur Twitter, je pense, hein. Justine Treillet. Moi j'avoue que j'ai vu la polémique parce que toute la journée d'hier je l'ai vu sur Twitter, mais je travaillais, je préparais le stream au musée hier, le musée Guimet National des Arts Asiatiques, mais je n'ai pas eu le temps d'aller voir la tribune, de l'écouter surtout. Et donc, eh ben, on va le faire maintenant. Alors, tac. Donc Justine, on va sur Twitter. Twitter, où es-tu? Tu es là. Alors, Justine Treillet. Donc, je pense qu'on va trouver ça en deux secondes. C'est partout. C'était partout hier. Voilà. Tiens, par exemple, je le vois sur le compte de Jean-Luc Mélenchon, voilà, qui retweet d'ailleurs cette prise de parole. Regardez. Jean-Luc Mélenchon qui a écrit il y a 14 heures. Merci à Justine Treillet pour son courage en plus de son talent. Cannes revient à sa tradition. C'est la gauche résistante qui a créé ce festival. Allons écouter. C'est ça qui m'intéresse. Cette prise de parole de réalisatrice Justine Treillet. C'est parti.
Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement...
Ça, c'est un extrait, je pense qu'on n'a pas tout, hein. Ça dure une minute seulement. Est-ce qu'on aura un extrait un peu plus long? Là, c'est une minute aussi. Là, c'est l'image avec sa palme. Non, c'est ça, c'est le même extrait à chaque fois partout. Ok, d'accord. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Vous? Je vous lis. Rondoudou, merci beaucoup pour le 11e mois d'abonnement. Alors, je vous lis un petit peu. L'essentiel a été dit, c'est un tout petit peu plus long, me dit Exutoire, mais on a l'essentiel. Crypto-marxiste, c'est mon ami Polo, là, le mytho qui est vraiment est en forme aujourd'hui. Il faut que je me penche sur ton historique, toi, un moment. Je pense que je vais me régaler. Alors, je vous lis. Les propos les plus construits. Hein. Voilà. Drago, par exemple, a été choqué. Honteux de prendre parole sur la politique dans le cadre d'une récompense du cinéma, c'est vraiment hors sujet, irrespectueux, estimes-tu ? Bonjour, bonheur, un peu plus haut, te réponds directement. Les gens ont oublié Godard, Truffaut, la nouvelle vague lors du festival de 68. Cannes a toujours été politique. Elle a osé prendre parti, estime MMGCTF. Allez, Ecstasy, merci beaucoup pour le deuxième abonnement. C'est un joli pseudo. Le cinéma n'est-il pas politique ? Demande Gremlins et Flock répond, le cinéma est politique. C'est important de prendre parole pour tous quand on a de la visibilité, écrit de Wasabi, c'est ce qu'on appelle une tribune, hein. Sinon on se tait et sinon jamais rien ne se passe. Le cinéma n'est pas détaché de la vie, hein, c'est un miroir de celle-ci, nous dit Exutoire. Le cinéma est politique, nous dit @neo. Drago n'est pas fut de fute et n'a jamais vu le dictateur de Chaplin. Tout est politique, dit Quentin. Je ne peux qu'être d'accord en fait avec ça. La politique, elle est partout. Y compris dans le divertissement, y compris dans le sport, y compris dans l'humour. Toute tribune est bonne à prendre pour rappeler la vérité, estime Toub 29 par exemple. Être artiste est tout à fait compatible avec la parole politique, c'est même un rôle historique, rappelle Akoufen. Depuis quand les artistes ne peuvent pas prendre la parole pour dénoncer ? Tous les arts sont politiques, nous dit Incognito. Heureusement que ceux qui ont la notoriété et de la vision parlent pour le petit monde, dit Légio Jean Simon. Politique, ok, mais trop démago, c'est trop, répond non, trop court. Des artistes qui dénoncent, c'est bien la moindre des choses, dit Noodles. C'est une tradition de Cannes de faire des discours politiques, rappelle Val Taïwan. Echo Von, qu'elle accepte son prix sans rien dire, on l'accuserait d'être déconnectée, de vivre dans une bulle. Si elle s'exprime, on lui rétorque que ce n'est pas le lieu ni le moment. Dans cette situation, t'as toujours tort, alors autant te lancer. Ah, de Gosque participe à ce débat en nous disant, je pense que c'est ni le lieu ni le moment pour avoir ce genre de discours. Le cinéma, c'est du rêve. Le cinéma, ce n'est pas que du rêve. Le cinéma peut être engagé aussi, hein, il peut être... Je ne sais pas, penser au film de Ken Loach, par exemple, dénonce la misère sociale dans son pays, la Grande-Bretagne, par exemple. Ce n'est pas que du rêve, ce n'est pas que du divertissement, ce n'est pas que le cinéma. Le cinéma est là parfois pour changer du réel et faire oublier le réel même, mais il peut aussi servir à autre chose, quoi. Et le cinéma peut être engagé, et les artistes ont le droit d'être engagés. De la même manière que chaque citoyen d'ailleurs a le droit de prendre la parole et de dire ce qu'il pense des sujets importants du moment. Ça, c'est mon avis, hein, si vous ne l'aviez pas compris, puisque cet homme me demande mon avis. Alors, sur le fond, sur cette réforme des retraites, les habitués de cette chaîne savent ce que j'en pense, puisque j'en ai parlé à maintes reprises ces derniers mois, sur cette question qui nous intéresse là, est-ce qu'une artiste a le droit de prendre la parole au moment où on lui la donne pour donner son avis sur un sujet politique ou social en France? Je dis ça me semble évident en fait. Merci beaucoup Matt Le Basque pour l'abonnement offert à la commu. Après, le débat il est aussi sur le côté comment ose-t-elle critiquer le cinéma subventionné alors qu'elle a été... Moi, ce que j'ai entendu dans sa voix, c'est qu'elle reconnaissait d'abord qu'elle avait pu faire ce film grâce justement au fait que le cinéma français est subventionné pour pouvoir vivre, justement. C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française et c'est quelque chose de très, très bien. Elle regrette juste, moi je l'ai écouté avec attention, que justement ce modèle puisse être abîmé. Ça ne s'appelle pas vraiment cracher dans la soupe, hein. En fait, moi, sur Twitter, j'ai vu beaucoup de réactions en mode elle crache dans la soupe, elle dénonce un cinéma subventionné, aidé, alors qu'elle en est justement le produit. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Elle regrette justement que ce modèle puisse être abîmé. Est-il vraiment abîmé? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'elle dit. D'ailleurs, on va aller voir le tweet de la ministre. Merci beaucoup Milk JN pour ce gentil message qui me touche. C'est gentil. Comme le dit Cletus Bright, recevoir des subventions ne veut pas dire qu'on écrit que du bien du bailleur de fonds. Bah ouais. Avoir des subventions n'achète pas le silence, dit Étalon du cul, joli pseudo. C'est surtout la réaction de la ministre qui est choquant, estime Marmottin. Prends tes subventions et tais-toi. Ouais. Que dit la ministre? On va aller voir le Rima Abdul Malak. Je crois qu'elle en a fait un tweet en fait. Là, je vais voir si je trouve ce tweet, si c'est bien un tweet. Rima Abdul Malak. Où es-tu? Je viens de te perdre. Voilà. Donc c'est la ministre de la Culture, qui je crois d'ailleurs s'est fait remarquer par une prise de position récemment lors des Molières, c'est ça? Voici le tweet, je crois. Le voilà. Heureuse, dit la ministre, de voir la Palme d'Or décernée à Justine Triet, la 10e pour la France, et puis bon, la 2e pour une réalisatrice française seulement. On va l'évoquer dans un instant, on va revenir sur le reste du palmarès. Mais estomaqué par son discours si injuste, dit la ministre, oui, ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde, ne l'oublions pas. Ouais. J'ai pas l'impression qu'elle remet en cause ça. Elle dit juste que c'est l'évolution de ce modèle. Moi, j'ai presque envie de la réécouter, en fait. Réécoutons l'extrait pour voir justement si...
Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites.
Ça, c'est la réforme des retraites.
Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines.
Voilà.
Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas.
On y arrive.
La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française.
C'est bien ça, bah, je ne me trompe pas. Elle dénonce, non pas le système, mais elle dénonce l'évolution de ce système sous l'influence d'une philosophie libérale ou ultra-libérale, dit-elle. Donc elle ne crache pas sur le système, notamment l'exception culturelle française, le financement pour partie publique du cinéma français. Au contraire, elle semble y tenir. D'ailleurs, je crois que dans un instant, elle va le rappeler qu'elle en aime elle-même le produit.
Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous.
Sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Donc en fait, moi j'ai beaucoup vu sur Twitter, c'est intéressant Twitter d'ailleurs, beaucoup vu sur Twitter hier plein de réactions en mode elle crache dans la soupe, mais pas du tout en fait. Au contraire, je crois qu'elle dit son amour et son attachement à ce système qui, je vous le rappelle, a permis de sauver le cinéma français et de faire du cinéma français un des rares au monde qui peut résister face au rouleau compresseur des blockbusters américains. Donc au contraire, elle dit son attachement, sinon son amour à ce système qui lui a permis, elle le reconnaît elle-même, de travailler. Et elle dit juste que qu'elle craint justement que ce système soit menacé. Et pardon, mais quand je vois les réactions que j'ai lues sur Twitter hier, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est intéressant. Je vois pas où elle crache dans la soupe en fait. Je vous lis un petit peu puis on enchaîne avec la suite de l'article. Pourquoi les gens sur Twitter n'écoutent pas tout, dit Julien. Pourquoi les gens sur Twitter n'écoutent même pas tout court, hein, les gens qui prennent position sur des déclarations, des vidéos, des streams sans les avoir regardés. Pardon Julien, mais c'est pas l'exception, j'ai envie de dire, c'est même la règle, hein, puisqu'on sait que la réaction un peu critique, un petit peu outrée, même si on n'a pas bossé, même si on n'a pas regardé l'extrait en question, voire même qu'on s'en vante, ça fait du clic, ça fait du like, c'est un peu Twitter quoi. Mais de plus en plus on prend conscience que Twitter, ça n'est pas la vie, et c'est pas forcément le meilleur endroit pour réfléchir et échanger avec les gens en fait. Elle dénonce les atteintes au système, dit John, par exemple. Voilà. C'est plus un message engagé et préventif qu'un message menaçant, estime de Wasabi. Allez, encore un ou deux messages et on enchaîne. Fredeli estime que l'exécutif a quelques problèmes avec la liberté d'expression quand elle ne va pas dans leur sens. Kigouille me dit, c'est intéressant. Attention Samuel, les réactions que tu as vues sur Twitter sont celles que l'algorithme veut te montrer, peut-être, ouais. Peut-être un peu pourri l'algorithme de Twitter. Alfred écrit « Non, désolé Samuel, les USA ne sont pas un rouleau compresseur. Plein de pays ont leur propre superproduction au film d'auteur. Le rouleau compresseur, c'est la consommation des gens. » Ma phrase n'était pas que les États-Unis étaient un rouleau compresseur. J'ai dit que les blockbusters américains étaient un rouleau compresseur, ce qui n'est pas la même chose. Je sais qu'il y a un cinéma d'auteur aux États-Unis. Moi-même, j'en ai consommé certains exemples. Et je parlais des... Ma phrase, c'est « Les blockbusters américains, tu pourras voir le replay, sont un rouleau compresseur. Il ne s'agit pas... de pareil que du cinéma américain. » Mais vous avez tous entendu ma phrase à l'instant. Ok, un débat intéressant en tout cas. Piedio écrit « Samuel, vous ne pensez pas qu'on parle plus des polémiques autour de l'œuvre, autour de l'art que de l'œuvre elle-même ?» Oui, tu as raison. Et tu sais quoi ? On va aller voir la bande-annonce de ce film d'ailleurs. Que je n'ai pas vu. Comment s'appelle le film ? Anatomie d'une chute. Ok, let's go. Ça, ça me paraît plus intéressant. Anatomie d'une chute. Bande annonce. Allez. Je crois que je l'ai trouvé. Ok, je vous le mets. 28 secondes. Oh là là, c'est une bande annonce très courte, ça. Ok, c'est très court. Alors moi, j'aime pas les bandes-annonces trop longues, mais pour le coup, je reste un peu sur ma faim.
I'm sorry to interrupt. I'm sorry, but I don't know. You come here, okay, with your maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos and everybody is lost, no? And sometimes we fight together and sometimes we fight alone and sometimes we fight against each other. That happens. And I think it's possible that Samuel needed to see things the way you described them, but if I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel, but would those things be true?
Et il y a un deuxième extrait qui est juste en dessous, qui est peut-être celui qu'on vient de voir à l'instant. Ah non, c'est un autre.
Il n'y a pas trop de lumière. Ça va, je peux baisser les stores si tu veux.
Moi ça va.
Ça va? Ok. On reprend, tu m'as pas répondu. Quand tes parents se disputaient, comment ça se passait?
Je sais, tiens. Enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs de disputes. Puis quand ils commencent à se crier dessus, à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller.
Et quand ça arrivait, tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux ?
Non.
Quand tu dis que tu préférais t'en aller, est-ce que le jour où ton père est mort, c'est ce qui s'est passé?
Non, pas du tout. Là, je voulais juste aller me promener.
Ok. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? Tu te souviens du genre de conversation qu'ils avaient?
Oui, à peu près. C'était pas une dispute. En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
D'accord, mais ça s'entendait que c'était pas une dispute.
Non, Daniel, on est d'accord, il y avait la musique très forte, toi t'étais dehors, tes parents dans la chambre de ta mère, donc deux niveaux au-dessus. Comment tu peux être sûr du ton des voix? Enfin, moi je me demande même d'ailleurs si t'as pu entendre les voix.
J'étais juste en dessous de la fenêtre ouverte, en fait, donc j'ai entendu... Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
Mam Gohanag, à l'instant dans le chat, merci à toi, vient de nous donner le pitch du film, en fait. Sandra, Samuel, donc son époux, et leur fils malvoyant, ok, de 11 ans. Attendez, je ferme la vidéo. Daniel, le garçon qu'on vient d'entendre ici, vivent depuis un an loin de tout à la montagne, et un jour Samuel, donc le père, est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute. Suicide ou homicide, un an plus tard, Daniel, donc le petit garçon là, assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. On va bien se marrer, écrit le fou du roi. Le cinéma n'est pas là que pour faire rire ou divertir. Quelqu'un dans le chat disait c'est quoi ce truc MDR? Exutoire a répondu c'est un film différent de Fast and Furious. Ça me fait rire parce que moi j'aime des cinémas très différents. J'adore les blockbusters, les gros trucs, notamment américains. Et les films de super-héros et autres, et les Fast and Furious que j'ai tous regardés, et j'adore aussi le cinéma un peu plus complexe, et qui fait appel à d'autres choses que le sourire ou le rire, comme le film dont j'ai parlé tout à l'heure avec Mimi Hegel à Paris, qui est mon film préféré, un film de 1984, si je dis pas de bêtises, d'Alan Parker, qui est Birdie, qui n'est pas un film comique, mais qui est Palme d'Or d'ailleurs à Cannes, et qui a fait un four à l'époque aux États-Unis, qui a fait un bide total. Les recettes étaient ridicules par rapport au budget du film. J'espère que le film s'est un peu récupéré international, mais c'est intéressant parce que pour moi c'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, et ça a été un bide aux États-Unis, donc tout ça est extrêmement subjectif, quoi. Moi en vrai je trouve que je me dis que, de toute façon, une palme d'or à Cannes est rarement un film facile d'accès, hein. Voilà. C'est normal. Ce sont souvent des films exigeants qui demandent un tout petit effort pour rentrer dedans, mais qui sont à même de nous faire réfléchir, de nous émouvoir, de nous confronter à des réflexions qu'on a peut-être déjà eues ou qu'on a peut-être justement jamais eues, quoi. Voilà. Voilà. Voilà, j'aime bien ce que dit Pulpitane. La diversité, c'est cool. J'aime autant les films de Kieslowski, magnifique. La double vie de Véronique, par exemple, ou encore Bleu, Blanc, Rouge, la trilogie, dans laquelle il y a notamment Juliette Binoche. Tu aimes autant les films de Kieslowski que de Franck Gastambide. Moi, j'aime les deux aussi. Voilà. Voilà. C'est vrai que, comme le dit De Gosse, que les palmes sont quand même souvent dans les palmes d'or, dans un registre dramatique. Revenons à l'article de JDD, justement. Au-delà de la polémique qu'on vient d'évoquer, l'incident, donc, dit le journal, a marqué une soirée où les femmes donc, ont été mises à l'honneur. Elles étaient 7 en compétition cette année, c'était déjà un chiffre historique. Justine Triet devient la deuxième française seulement a décroché cette prestigieuse récompense, 2 ans après Julia Ducournau pour Titane, et la troisième femme pour Jane Campion, célébrée pour La leçon de piano il y a 30 ans. Bon, là on vient d'évoquer quelques palmes d'or, effectivement, on n'est pas dans le sourire, on n'est pas dans la comédie. Le président de la 76e édition et ses jurés ont donc été sensibles à cette drôle d'affaire où une écrivaine, donc la femme qu'on a vue ici à la barre au tribunal, se voit accusée du meurtre de son compagnon tombé de la fenêtre de son chalet. D'où le titre Anatomie d'une chute. Merci Matt Lebasque pour l'abonnement offert à la commu. La réalisatrice orchestre le système de défense d'une accusée contrainte de révéler les faces obscures de son couple et de se confronter aux interrogations de son jeune garçon. Une chronique judiciaire qui va direct à l'essentiel, à l'image de sa metteuse en scène qui n'a pas beaucoup laissé déborder son émotion et a vu Cannes comme une tribune politique. Et ça, on vient de le voir à l'instant. Voilà, chacun y va de son petit conseil cinématographique. La leçon de piano à voir absolument, nous dit Biche Crépusculaire. J'ai vu quelqu'un qui nous proposait petit codes. L'intro trop. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Si vous avez des enfants, vous connaissez. L'intro trop, c'est un banger. Hein. C'est un classique. Tout le monde connaît l'intro trop. Ceux qui n'ont pas d'enfants, je vais vous montrer l'intro trop. C'est vrai qu'on est sur une des plus grandes réalisations audiovisuelles de l'histoire du dessin animé. L'intro trop, je vous montre l'intro trop. Vous connaissez pas l'intro trop? L'intro trop rigolo? Vous connaissez pas? C'est ça l'intro trop.
L'intro trop. Trop rigolo.
Voilà, c'est ça l'intro trop. C'est génial. Là, c'est trop fait de la peinture, par exemple. C'est trop mignon, des histoires de l'intro trop. Vas-y, trop. Balance.
Aujourd'hui, je ne peux pas aller dehors.
Non, oh, trop chaud.
Mais je m'ennuie un peu, moi.
Ben oui.
Qu'est-ce que je pourrais faire?
Souvent, il s'ennuie, puis après, il joue avec ses copains.
Jouer de la musique? Non, pas aujourd'hui. Construire une maison?
Tu ne crois plus en l'humanité. Tu te désespères de l'agressivité et de la méchanceté des gens. Tu vas te faire un petit coup d'intro trop. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Nous, on finit sur quoi? On finit sur deux articles. L'un sur une question d'environnement et de circulation, c'est à Paris. Mais le débat va au-delà de Paris et de la région parisienne, vous allez voir. Je remercie, je m'incline, je baise les pieds du Japon et de tous les Français, notamment qui vivent au Japon, puisque nous venons de vivre notre troisième raid de ce matin venant du Japon, puisque Nini nous arrête tout à l'heure. Quelle était la première chaîne qui nous arrête? Est-ce que vous pouvez me rappeler la première chaîne qui nous arrête tout à l'heure? Je ne l'ai plus. Là, c'est Tokyo Exclusive qui vient de nous raid à l'instant. Voilà, c'est le troisième raid de ce dimanche matin. C'était citron violet, bien sûr. Voilà. Pas citron vert, mamie Bricolto, citron violet. Citron violet, Ninion et à l'instant Tokyo Exclusive. C'est drôle parce que j'en parlais hier avec les responsables du musée Guimet, qui est le musée national des arts asiatiques à Paris, le musée Guimet. Et je disais, parce qu'eux, ils cherchent justement à toucher, par exemple, un public de touristes. Japonais, chinois, sud-coréens qui pourraient venir à Paris et qui ne pensent pas forcément à venir au musée Guimet. Et je leur disais, en fait, ce que vous devriez faire, c'est faire un stream comme celui qu'on vient de faire hier soir, un stream avec un streamer japonais ou sud-coréen, chinois, je ne sais pas si c'est possible. Il y a Twitch en Chine. Compliqué en Chine, non, de streamer. Donc, un streamer asiatique qui viendrait streamer à Paris et diffuserait ça sur Twitch. Oui, il n'y a pas Chine. Oui, il y a pas de Twitch en Chine, je m'en doutais un petit peu. Voilà. Donc si un créateur de contenu là, français vivant au Japon ou asiatique nous regarde, proposer au musée Guimet, il serait super heureux de faire ça. Il y a des équivalents. Voilà. Donc il n'y a pas Twitch, mais il y a des équivalents. Ok. Le Twitch Japon n'est pas aussi développé qu'en France, c'est pas très connu là-bas. Ok, d'accord. Ok. Waterline me dit Croucou, ça s'appelle en Chine, d'accord. Et en Corée du Sud alors? En Corée du Sud, c'est un peu plus développé. Est-ce qu'on stream? Et notamment, est-ce qu'on stream sur Twitch en Corée du Sud? Vous me dites que c'est pas très développé au Japon, ce que j'apprends. On me dit qu'en Chine, les lives, c'est surtout sur TikTok. Ouais, au Louvre, j'avais parlé des équipes du Louvre qui m'avaient dit qu'ils avaient fait un live sur TikTok avec une équipe chinoise. Merci beaucoup Tokyo Exclusive pour ce raid. C'est pas un petit raid, c'est un super raid. Merci Ninion, merci Citron Violet et merci Tokyo Exclusive. Merci beaucoup. Yeah, ouais. Tiens, vous deviez pas faire un truc avec Papsan, Crimo? Va voir sur ma chaîne YouTube, on l'a fait le truc avec Papsan, on l'a fait déjà il y a quelques mois. Allez, on revient du coup en France et on revient même sur le périph, puisqu'on a encore une polémique sur la voie dédiée du périphérique qui fait polémique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont décidément on parle beaucoup. La ville compte pérenniser la voie dite olympique après les Jeux en la réservant au covoiturage. Ce serait la file de gauche, hein, qui serait réservée au covoiturage, au bus et au taxi. Donc c'est pas une voie vélo maori, parce que il s'agit pas de tuer les cyclistes qui s'aventuraient sur le périphérique, c'est de réserver la voie de gauche au covoiturage, au bus et au taxi, comme à Lyon, me dit Ambition. Ça, je ne savais pas parce que je n'ai pas roulé à Lyon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de référendum sur Internet qui se termine aujourd'hui et qui disent que les gens qui participent disent qu'ils sont totalement opposés à ce truc. Lisons, comprenons, échangeons, débattons. Sans polémique, Paris ne serait plus Paris. J'ai envie de dire, sans polémique, la France ne serait pas la France. C'est dans un climat de controverse habituel que s'achève aujourd'hui la consultation consacrée à la création d'une voie, donc réservée au covoiturage, au transport collectif et au taxi, sur le boulevard périphérique, donc qui fait le tour de la capitale pour ceux qui ignorent, c'est une trentaine de kilomètres, pendant les JO et les Jeux paralympiques de 2024. Pendant l'événement planétaire, la file de gauche, quelqu'un me disait un instant, comment ça, les bus à gauche sur le périph ? Oui, la file de gauche sera réservée pendant les JO aux véhicules accrédités, donc athlètes officiels, personnel médical, donc ça personne ne conteste ça, mais la ville prévoit de pérenniser le dispositif. Propriétaire de cet anneau de 35 km de long emprunté chaque jour par 1,5 million de véhicules, quand j'avais la forme, quand je faisais beaucoup de sport, mon petit tour du dimanche c'était de faire le tour, non pas du périphérique à pied, ça c'est dangereux, ne fais pas ça, mais le tour du boulevard des Maréchaux qui est parallèle au périphérique à l'intérieur de Paris, donc je faisais mon petit tour de Paris comme ça, c'était assez sympa, et puis je passais par tous ces quartiers très très différents et c'était amusant de voir comment Paris pouvait être aussi divers et différent. Donc la ville propriétaire de cet anneau de 35 km, emprunté par 1,5 million de véhicules tous les jours, a organisé une participation du public par voie électronique, PPVE, du 17 avril au 28 mai. Ça s'achève aujourd'hui, une espèce de référendum sur Internet. À la veille de la clôture de cette consultation, près de 6000 contributions, c'est pas beaucoup, hein, 6000 personnes ont été enregistrés sur la plateforme périphérique voix dédiée Paris. C'est encore en cours aujourd'hui, vous pouvez voter, donc c'est périphérique-voix-dédiée.paris. Une faible participation, bien en-delà des 103 000 votants lors du scrutin sur les trottinettes en libre-service en avril, dont on a parlé ici. 103 000 votants sur le référendum sur les trottinettes en libre-service, c'est que dalle, c'est ridicule par rapport au nombre de Parisiens, hein, on en avait parlé. 6 000, c'est pas ridicule, c'est que ça, personne n'est allé voter, quoi. Peut-être que personne n'en a parlé aussi. Plus de 80% en tout cas des 6 000 participants ont exprimé une opposition catégorique au projet, alors que celui-ci est validé. Donc peu de participation, et quasiment tous les gens qui ont voté, et même GCTF, merci à toi, vient de nous mettre le lien dans le chat. Et l'immense majorité des votants ont dit non. Alors, l'adjoint à la mairie de Paris, chargé des mobilités, qui s'appelle David Béliard, dit « Oui, la grande majorité des contributions est négative, il le reconnaît. C'est normal, dit-il, les réactions épidermiques sont toujours plus nombreuses. Et les 200 000 personnes qui habitent à côté du périphérique et en subissent les nuisances sont souvent plus éloignées du fait politique. » D'accord. « Et se mobilisent moins. Or, c'est d'abord à elles que ce projet s'adresse. » Je remarque juste, je suis un petit coquin quand même, hein, que pour le référendum organisé sur les trottinettes en libre-service à Paris, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que l'immense majorité des gens ont dit « Yes, on interdit les trottinettes en libre-service à Paris » et la mairie de Paris a trouvé ça formidable. Quand la mairie de Paris organise un référendum sur le périphérique et que les gens disent « Non », c'est le même outil, mais là, David Béliard dit, je cite... la grande majorité des contributions est négative, c'est normal, les réactions épidermiques sont toujours plus nombreuses. Mais alors, comment expliquer que sur l'autre... Je dis ça, je dis rien, hein, je suis un peu coquin. Hein. Bon, comme souvent, on analyse un petit peu les résultats des élections, ou ici des référendums, dont le sens un petit peu que ça arrange. Quoi. Je dis ça, je dis rien. Sur la plateforme, de nombreux messages dénoncent en tout cas une idée ridicule, une folie, une mesure liberticide qui relève du sadisme. D'autres plus mesurés redoutent que des banlieusards qui ne peuvent pas se passer de leur voiture soient entravés dans leur déplacement. A l'inverse, des voix minoritaires s'élèvent pour défendre le projet, notamment des riverains parisiens ou habitants des 21 communes limitrophes. Une excellente idée pour faire baisser la pollution atmosphérique et le bruit également, disent certains, ou encore une cause d'intérêt général. Des gens qui expliquent que ça marche comme ça depuis les années 90 aux États-Unis ou au Canada. Un contributeur considère que le droit des automobilistes à circuler librement ne doit pas primer sur son droit à lui de ne pas mourir prématurément à cause du gaz d'échappement et du bruit. Vous savez que la pollution atmosphérique dans une ville comme Paris, et pas seulement qu'à Paris, c'est une catastrophe, et que ça crée, provoque beaucoup de maladies et beaucoup de décès anticipés aussi, quoi. Je vous lis un petit peu. Rappelons que la voiture est une drogue dont on ne peut psychologiquement se passer. Selon Larousse, il faut sevrer de force le tout bagnole, écrit GTF dans le chat. Alors David Béliard, l'adjoint aux mobilités, dit que c'est pour lui avant tout un enjeu de santé publique. Nous voulons donner une impulsion forte au covoiturage, puisque les voitures qui, les conducteurs qui font du covoiturage auront le droit d'utiliser cette file. L'idée est de réduire le nombre de véhicules sur le périphérique sans réduire le nombre de personnes véhiculées. Nous tablons sur 100 000 à 200 000 voitures en moins chaque jour. Donc en fait, on parlerait, actuellement on est à 1,5 million, donc on passerait à 1,4 million. 1,3 million, donc c'est pas non plus une révolution, hein. Si 10 à 20% des automobilistes cessent de rouler seuls, alors certains me disaient dans le chat, en parlant de l'expérience de Lyon, que c'est absolument pas respecté à Lyon. C'est vrai ou pas? Certains me disent que c'est déjà le cas à Lyon et que c'est pas du tout respecté à Lyon. C'est vrai ou pas? Les Lyonnais, les Lyonnaises. L'autosolisme, le fait d'être seul dans sa voiture, représente 80% des déplacements sur le périph. C'est vrai ou pas? Vrai, pas respecté, me dit Valentina. Oui, c'est aussi le cas à Strasbourg, me dit Zafir. Je suis le premier à ne pas le respecter, me dit Bibitou. Je suis lyonnais, je le savais même pas, nous dit Doudoune sans manche. Bon, comme ça, on est éclairé. Alors... est-ce que ce sera respecté? En tout cas, on prévoit un petit peu des amendes. Attention, sur le périph', il y aura des panneaux lumineux à message variable qui seront installés avant la fin 2023. Là, c'est bientôt. Hein, ainsi que des caméras de vidéo-verbalisation capables de compter les passagers, donc le covoiturage, et d'envoyer une amende de 135 €. Bah, on verra. Voilà. Et on va finir par Le Monde. Voilà. Puis après, je vais aller courir un petit peu, prendre le soleil. Là, j'ai un truc à 17h cet après-midi, dans le truc de cinéma dont je vous parlais tout à l'heure. Puis après, je dîne avec mon petit-neveu en fin de journée. C'est un très beau portrait que j'ai trouvé très touchant dans Le Monde. Un portrait d'une jeune femme, jeune fille de 17 ans, atteinte de trisomie 21, intitulé Loéline, 17 ans, trisomique. Et alors, j'étais très touché par cet article signé Frédéric Potet. Très touché par ce portrait. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Elle chante, elle s'appelle Loéline, donc elle chante, elle danse, elle suit des études, elle fait des stages, elle veut travailler dans un restaurant. Le handicap de cette jeune femme hors norme, qui participe même à des concours de beauté, n'est pas un obstacle à ses rêves. J'ai trouvé ça très très beau. Loéline Grimaud, 17 ans, doit commencer un stage de 4 semaines là, lundi, 29 mai, dans Biocal Fabrication Française à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Une entreprise créée il y a un an et demi qui propose des plats cuisinés, des terrines gourmandes dans des bocaux stérilisés. Son patron, Stéphane Dorizon, a fait de l'intégration des personnes en situation de handicap l'un des piliers de sa petite entreprise. Chez lui, Loéline va participer à de nombreuses tâches. Hein, elle va faire plein de choses, conception des menus, cuisine, conditionnement, plonge, service en boutique. Bon, vous verrez, la restauration, c'est son rêve. Seul l'encaissement ne lui sera pas accessible en raison de ses difficultés avec les chiffres. Porteuse de trisomie 21, l'adolescente n'en est pas à son coup d'essai. Elle a fait déjà plein de choses malgré son jeune âge. Stimulée précocement sur les plans psychomoteurs et du langage par sa famille, Loéline multiplie d'un côté les activités de loisirs, moderne jazz, chant, natation, cuisine, couture, de l'autre les expériences professionnalisantes. Ses parents, opposés au souhait de la maison départementale des personnes handicapées qui voulait l'envoyer en institut médico-éducatif, sont parvenus à l'inscrire dans un lycée privé de Blois, en CAP assistant technique en milieu familial et collectif. Loéline, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, n'obtiendra pas son diplôme en fin de scolarité, mais peu importe pour elle et pour ses parents, son objectif est de suivre des cours de cuisine et de service aux côtés des autres élèves, quoi. Un premier stage dans un restaurant à Nantes qui s'appelle Le Reflet, qui emploie une majorité de personnes atteintes de trisomie, je dis bravo à cet établissement, l'avait convaincu de s'orienter. Une porte qui s'ouvre chez moi, je suis censé être tout seul, c'est très bizarre, je vais me faire attaquer dans un instant. Appelez vite la police si c'est le cas. Je plaisante bien sûr, je sais pas d'où ça vient. Donc elle aura pas son CAP, mais elle s'en fiche, parce que l'important pour elle, c'est de suivre ses cours de cuisine et de service aux côtés des autres élèves. Donc elle a fait un stage dans le restaurant qui s'appelle Le Reflet à Nantes, et c'est ça qui l'avait convaincue de s'orienter dans cette voie. Un deuxième stage à la cantine d'une école rurale à Mareuil-sur-Cher dans le Loir-et-Cher cette année l'a conforté dans son rêve. Travailler. Ah, c'est lire et écrire, j'ai mal lu. Oh pardon, j'ai mal lu. Oh, qui sait lire et écrire, je l'ai mal lu. Pardon. Oui, excusez-moi. Hop, je corrige, heureusement vous êtes là. Pardon. Je reviens un peu en arrière. Loélie, qui sait lire et écrire, pardon, n'obtiendra pas son diplôme en fin de scolarité, mais peu importe, l'important pour elle, c'est la cuisine. Excusez-moi. Merci d'avoir corrigé, heureusement que vous êtes là, on est plus malin à 3000 que tout seul. Son rêve, donc, travailler un jour dans un restaurant extraordinaire. Extraordinaire est bien le terme qui convient au parcours de cette touche-à-tout intrépide qui a 2 mois à participer à un concours de beauté départemental, c'est cool, non ? Organisé sous l'égide du comité Mademoiselle France, c'est un clone de Miss France, nous explique le journal, mais qui n'exige aucun critère de taille. Ce 25 mars dernier, à la salle des fêtes de Moret en Loire-et-Cher, elle a pas tremblé aux côtés des 18 autres candidates, enchaînant les tableaux dansés dans une débauche de froufrou et de paillettes, portant fièrement la robe de mariée de sa mère. Elle a confié au micro devant le jury qu'elle se sentait belle. Le jury, hélas, ne l'a pas retenue parmi les 8 finalistes. Mais il s'est passé plein de choses après. Un mois plus tard, une association d'étudiants d'Orléans l'a invitée à prendre part à un défilé caritatif dans une discothèque en compagnie de créateurs de mode, bravo. Peu après, un autre concours de Miss et de Mister, le comité modèle de l'égalité, un gala d'élégance récemment créé axé sur la bienveillance et la solidarité, lui décernait un titre régional. Et lors de la finale nationale qui est prévue en novembre, eh bien, Loéline revêtira une robe de sa création pour défendre la cause de son choix, à savoir changer le regard sur le handicap. On ne la pousse pas, disent ses parents. C'est elle qui choisit de faire ce qu'elle fait. Ça l'épanouit, ça la rend heureuse, assure Sylvie et Eric Grimaud, qui sont respectivement infirmières et policiers et parents de 3 autres enfants. Loéline nourrit un autre projet important, c'est la fin de l'article. Acquérir un nouveau chien d'éveil spécialisé dans l'assistance auprès d'enfants trisomiques. Son golden retriever appelé Faco est en effet mort de vieillesse fin 2022. Berger allemand à poil long devrait arriver prochainement à la maison. Elle lui a déjà trouvé un nom unique, comme elle. Unique. C'est beau, non ? Je trouvais bien cet article. Voilà. Les amis, pardon d'avoir commencé à streamer si tard. J'ai lancé ce stream à 11h, c'est ça ? Attendez. Non, 10h ? Non, 11h ce matin. Parce que je me suis levé à 9h, espèce de dinguerie, parce que je me suis couché à 3h du matin, après le stream d'hier soir au musée Guimet. Je vous laisse parce que je retrouve Mimi Hegel cet après-midi dans un festival, je vais vous dire le nom. Enfin, c'est un événement qui est organisé par une streameuse d'ailleurs, c'est très très bien ça. Qu'est-ce que je fais cet après-midi ? Je vais vous dire. Alors attends. Je vais vous dire ce que c'est. Précisément. Alors, Mimi. Je remonte dans les messages. Où est-ce que c'est ? Culture Fest. Ça s'appelle le Culture Fest. C'est le festival organisé par Manon Bril, vous savez, la chaîne YouTube. C'est une autre histoire. Qui met en avant, donc, le Culture Fest, les gens qui parlent culture et pop culture sur Internet. Voilà. Et donc en fait je suis l'invité dans le cadre de Culture Fest de Manon Bril, qui viendra un jour dans l'hebdo Étienne d'ailleurs, on s'en est parlé tous les deux, à un épisode du podcast de Mimi Hegel qui s'appelle le Film Club, qu'elle coanime avec Fabrice Florent, dans lequel on parle des films qu'on aime voir et revoir qui nous ont marqué. Et bien justement, je parlerai de mon film préféré à moi qui s'appelle Birdie, film d'Alan Parker de 1984, que j'ai vu hier soir en rentrant du musée. C'est pour ça que je me suis couché à 3h du matin. Donc je fais ça aux alentours de 17h, 17h30 cet après-midi. Là je vais aller courir. Et puis je vous remercie chaleureusement. Oh putain, je suis plus de faim. Oh désolé. Pour ce matin. pour votre participation, pour votre intérêt pour l'actualité et mes petits trucs ici. Je vous retrouve demain matin. Demain matin. Demain, c'est férié. Donc, j'ai pas de France Info. J'ai pas de questions pour un champion. Et donc, bah, du coup, je vais pouvoir streamer à loisir. On lancera le stream un peu plus tôt, hein, genre 8h30. 8h30, 9h demain matin. Voilà. Je vous souhaite un super joli dimanche. Soyez heureux. Rendez heureux les autres autour de vous. Envoyez-leur plein d'amour. Il y a Floc qui dit, comment ça c'est férié demain? C'est pas férié demain? What? Il y a David Dufresne qui nous raid en fin de stream. David, merci. Énorme raid. Merci beaucoup David. Et ben, c'est pas grave. C'est la fin. On a lu les journaux. Mais du coup, on va raid encore plus puissamment une autre chaîne. David, merci beaucoup, c'est super. Ah, c'est pas férié pour tout le monde? Ah ok. C'est la journée de solidarité demain, me rappelle-t-on. Donc c'est pas férié pour toutes les entreprises. D'accord, donc là, c'est la journée de solidarité. D'accord. Ah mais c'est bizarre, moi du coup je bosse pas. Ok. Bon moi je vais streamer demain. David Dufresne, la légende, me dit Master Yoda. Oui, exactement, on est d'accord. C'est un super contenu. Allez voir la chaîne, n'hésitez pas les modos d'ailleurs à mettre dans le chat, comme d'habitude, l'arrêt de David Dufresne. La chaîne de David Dufresne, qui est une excellente chaîne où on parle de plein de choses. Du coup. Beaucoup de soutien, allez voir Gaspard, faites-leur un coucou à tous les deux de ma part, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous, c'est mon mantra en ce moment, et à demain matin. Merci les amis, merci pour tout, bon dimanche, profitez aussi du beau temps, ciao ciao.